Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous Tech, l'émission où on parle technologie, internet et gadgets. Nous sommes le 8 juin 2009 et c'est l'épisode numéro 10. Bonjour à tous, vous êtes en train d'écouter le Rendez-vous Tech, l'émission bimensuelle où on parle de l'actualité technologique, internet et gadgets. J'espère que vous allez tous super bien, on a une actualité extrêmement chargée aujourd'hui. On va vous parler d'Apple, de l'E3, de Google et je crois que ça va presque être suffisant pour remplir notre émission. Il y aura quelques petits trucs en plus, mais c'est presque négligeable par rapport. Aujourd'hui, comme tous les deux épisodes, je suis avec mes co-animateurs préférés, Yann, Mister Yann Alec, comment vas-tu ?
Ça va très bien, ça va très bien. Je suis vachement content d'être là pour ce 10e épisode. Vu les deux dernières semaines d'actualité numérique qui se sont écoulées, il y a vraiment beaucoup de choses sympathiques à raconter et sur lesquelles on va pouvoir discuter. Donc je suis vachement content d'être là. Ouais.
Et on risque d'avoir quelques désaccords tous les deux. Et
comme toujours.
Peut-être que Jeff, notre troisième panéliste, sera lui aussi un petit peu en désaccord avec nous sur certains trucs. Alors, direct de la Silicon Valley, comment vas-tu Jeff ?
En direct de la Silicon Valley, très bien, très bien. Il fait un superbe temps. J'ai plein de copains qui étaient à la WWDC pour la keynote et on est super excités. Je vais bientôt avoir un nouveau MacBook Pro. Et oui, je le dis et je suis très excité.
Je sens du fanboyisme quand même dans la voix.
À peine.
Non, pas fanboy, absolument pas fanboy. Je vais complètement acheter un nouveau Mac et un nouveau iPhone, mais je ne suis pas un fanboy, absolument pas.
Tu nous expliqueras pourquoi dans quelques secondes. En attendant, on va quand même dire bonjour à la chatroom qui nous suit comme d'habitude. Vous allez bien, la chatroom ? Si vous voulez suivre l'émission en direct au moment de l'enregistrement, vous pouvez avoir les informations sur le site. Il y a un petit calendrier avec un lien et tout ça, c'est super bien fait. Il y a quelques dizaines de personnes dans la chatroom. Les chiffres montent, hein. Il y a de plus en plus de viewers. Donc, ça fait plaisir de voir que vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre. Donc, merci à vous. Puisque vous êtes là, on ne va pas vous faire attendre plus longtemps et on va rentrer immédiatement dans le cœur du sujet en commençant par la première chose, c'est la conférence, enfin la keynote, la présentation d'Apple qu'ils ont fait à la WWDC. Alors pour ceux qui ne le savent pas, la WWDC c'est la Worldwide Developer Conference où ils font généralement des annonces assez importantes et là on en a eu quelques-unes. Moi, je vous avoue que je suis un petit peu azimuté parce que j'ai fait, juste avant l'enregistrement de cette émission, une diffusion en direct sur un site qui s'appelle Tiny Chat où on était 12 personnes en direct avec la webcam, avec des gens assez sympathiques. Mais ça, c'était assez drainant, donc je vais peut-être vous laisser parler un petit peu plus pour le début de cette émission. Surtout que, je vous avoue, allez, on rentre dans le vif du sujet, moi, j'étais hyper déçu par cette WWDC. Enfin, par la présentation. Peut-être qu'on peut, puisque Jeff, tu es enthousiaste, tu peux nous dire ce qui t'a intéressé dans cette présentation, qu'est-ce qui valait le coup ?
Deux grandes choses pour moi, trois, enfin, soit deux, soit quatre. Les deux grandes, c'est du nouveau hard, donc la nouvelle ligne de MacBook Pro, enfin de MacBook et de MacBook Pro, donc le 13 pouces, le 15 pouces, le 17 pouces, avec des nouvelles performances, des nouvelles cartes graphiques, des machines qui ont l'air vraiment très très sympa, avec une nouvelle technologie de batterie. Ce que j'ai retenu moi, c'est que le MacBook Pro, dans une utilisation à peu près normale, va durer jusqu'à 8 heures sur la batterie, ce qui est énorme, ça veut dire quasiment un vol San Francisco-Paris sur la batterie, ce qui est monstrueux. Donc ça c'est pour la nouvelle ligne de Mac. Le nouvel iPhone, donc le 3GS, S pour speed, avec une accélération, donc un nouveau processeur, une accélération de l'ensemble des tâches de la vidéo. Donc maintenant l'iPhone serait capable de prendre de la vidéo, ce qui est une fonctionnalité aussi qui est bienvenue, et une nouvelle caméra qui sera de meilleure qualité. Et derrière, des améliorations au niveau des deux OS, donc Snow Leopard qui est une nouvelle version de OS X qui va avoir tout un tas de fonctionnalités vraiment, vraiment très intéressantes. Et puis, ça on connaissait déjà, c'est l'iPhone, l'OS iPhone 3.0 qui a lui aussi plein de features qui sont vraiment très intéressantes, dont le copy-paste.
Oui, le copier-coller qu'on attendait tous depuis longtemps. Moi, j'avoue que sur le côté software, toutes ça a quand même pris quoi, un bon 1h30 sur la présentation qui en faisait à peu près 2. Et c'était des choses qu'on savait déjà en majorité, donc c'est ça qui m'a un petit peu endormi, j'avoue. La présentation de l'iPhone OS 3.0 était déjà présentée, et tout ce qui était MMS... comment ça s'appelle la boussole, enfin tout ça on le savait déjà plus ou moins, certains par des rumeurs, certains parce que ça avait été déjà présenté, pareil pour Snow Leopard. Bon, il n'y avait rien de super révolutionnaire non plus. Le hardware, c'est-à-dire les ordinateurs portables, c'est très bien qu'ils durent plus longtemps, qu'il y a un MacBook Pro 13 pouces qui soit très puissant et tout, mais ça change pas la face du monde. Et à vrai dire, même l'iPhone, l'iPhone 3GS, qui est la nouvelle version de l'iPhone classique, n'a pas apporté certaines améliorations qu'on aurait pu espérer, comme une caméra sur le devant de l'appareil pour faire de la vidéoconférence, ou même peut-être une sorte d'iPhone en tablette, ou un truc qui aurait été vraiment un nouveau produit en tablette, je veux dire, pas en tablette de chocolat, hein, juste en un appareil plus grand qui fasse office de netbook.
De netbook.
Ouais. Donc c'est peut-être pour ça que j'ai été un petit peu déçu par les présentations, parce que c'était moins révolutionnaire que ce que j'attendais. Yann, t'as été satisfait, toi, de ces présentations ?
Bah écoute, je dois avouer que bon, je suis resté un petit peu sur ma faim aussi. Il y a quand même 2-3 choses qui m'ont intéressé, qui m'ont plu. C'est passé un peu inaperçu, mais moi c'est surtout le partage de connexion internet via Bluetooth et USB. Alors malheureusement, j'ai pas pu voir le truc en live, puisque bon, la qualité de transmission était vraiment pourrie, donc j'ai pas vraiment pu voir comment ça se passait.
Oui, parenthèse, tiens, à ce propos, on peut peut-être préciser aux gens que normalement Apple ne fait jamais de retransmission en direct de leur conférence et de leur présentation, mais là il y a eu un petit malin qui s'est glissé dans la salle et qui faisait une représentation, enfin qui faisait une transmission par Wi-Fi, par 3G, on ne sait pas très bien comment. Bon, la qualité n'était pas bonne, mais je suis pas sûr que Apple ait vraiment apprécié, hein. Mais bon, t'as quand même pu voir.
Connaissant Apple, je pense pas que mes copains de Ustream. Je suis un investisseur, désolé, et fait ça en pirate. Parce que c'est pas le genre de choses qu'ils vont faire, et de toute façon ils ont des batteries de caméra, enfin ils ont au minimum une caméra dans la salle, et je pense qu'ils l'ont fait avec l'accord d'Apple.
Tu crois? Parce que c'était presque, on avait l'impression que c'était un téléphone, hein, le truc. Mais bon,
je leur poserai la question.
Ouais, parce que là, je crois que tu vois, c'était vraiment un type qui était avec son téléphone, qui le tenait, ou avec une flipcam, ou je sais pas ce que c'est, mais qui le tenait et qui faisait ça presque genre un concert pirate, tu vois, le mec qui. Enfin bon, on aura peut-être plus de détails là-dessus plus tard. Mais pardon, continue, Yann, je t'ai interrompu.
Pas de souci. Donc ouais, moi, c'était surtout le partage de connexion qui m'intéressait, puisque souvent je me retrouve dans des situations où j'ai mon portable, j'ai mon iPhone, mais j'ai pas forcément une connexion Wi-Fi à proximité, et le fait de pouvoir connecter mon iPhone à mon PC en Bluetooth et pouvoir surfer de n'importe où sans acheter ces cartes SFR ou ces trucs que tu payes une fortune pour avoir 10 minutes de connexion, ça je trouve ça vraiment sympathique. J'ai beaucoup aimé aussi le côté OpenCL. Donc bon, c'est un petit peu plus, enfin bon, moi aussi je suis un développeur, hein, donc j'ai été très intéressé par ce genre de truc. C'est
alors, oui, il y avait beaucoup de choses. WWDC, ça veut dire, donc c'est vraiment une conférence qui est adressée spécifiquement aux développeurs, donc même si moi personnellement il y a des trucs qui m'ont endormi, on peut comprendre qu'ils parlent de choses assez techniques quand même.
Ouais, là ça va être mon petit coup de gueule, c'est que comme tu le dis, donc la WWDC c'est DC pour Developer Conference. J'ai pas vu grand chose adressé aux développeurs. Franchement, quand t'es habitué aux conférences, quand l'habitude de donner, par exemple Microsoft, on va encore dire que je fais mon fanboy Microsoft, mais c'est vraiment la réalité. Quand Microsoft fait une conférence adressée aux développeurs, tu vois vraiment du code. Il parle vraiment il te montre les API, il te montre les classes, il te donne la richesse du truc. Là, aujourd'hui, Apple, ils ont fait un show, quoi. Ils ont montré des produits, mais ce n'était vraiment pas destiné à un développeur. Un développeur, il a rien vu. Là, il reste vraiment sur sa faim. Et moi, c'est plutôt sur ce côté-là que je dis que j'ai été un petit peu déçu. comparé à ce que dit Microsoft. Quand par exemple ils ont parlé de Grand Central Station, qui est le nom pompeux qu'ils ont trouvé pour pouvoir expliquer leur optimisation d'utilisation du maximum de CPU disponible sur la machine, voilà, ça tient en une phrase, mais ils t'expliquent pas finalement qu'est-ce que ça va apporter vraiment au développeur, comment un développeur va devoir architecturer son code pour pouvoir bénéficier de cette puissance supplémentaire. Il y avait rien à ce niveau-là, c'était vraiment très très
Non, mais je suis pas d'accord avec toi du tout. C'est un, comme le dit la chatroom, c'est un événement pour la presse, c'est un événement d'annonce. Ils annoncent les nouveaux produits, les nouvelles trends, et tu vas avoir 2 jours de conférences non-stop là à San Francisco, où les développeurs vont pouvoir apprendre plus sur les nouvelles API, sur le nouvel iPhone OS, et donc ils vont avoir plein d'infos. Moi j'ai plein de mes boîtes qui sont là-bas, qui vont passer 2 jours complets de manière à parler avec je crois qu'il y a 1 millier de gus d'Apple qui sont sur place de manière à animer la conférence, et je suis certain qu'ils auront plein d'infos. Donc ça, c'était franchement le kick-off, c'était le premier événement, et ils ont profité pour lancer les nouveaux produits.
Alors justement, si on veut parler précisément de ce qui intéresse les utilisateurs que nous sommes, les choses qu'ils ont annoncées un petit peu nouvelles pour le nouveau système de l'iPhone, ce sont des choses comme la possibilité d'acheter des vidéos et de les télécharger directement sur l'iTunes Store sur l'iPhone en lui-même. On n'a plus besoin de passer par le PC. Ça, c'est pas un truc énorme en soi, mais ça augure de possibilités intéressantes pour l'avenir. Le fait de pouvoir trouver son iPhone par GPS quand on l'a perdu, c'est-à-dire qu'on peut aller sur le PC et le retrouver, sur le PC ou le Mac évidemment, et le retrouver, savoir où il est, voire le wiper, donc effacer tout ce qu'il y a dessus. Et ça, c'est très important pour les sociétés, pour le marché de l'entreprise. C'est une fonctionnalité qui est importante pour eux. Donc on sent que l'iPhone Apple est en train d'attaquer ce marché de manière un petit peu plus agressive. Il y a évidemment le GPS avec tout ce qui s'appelle le turn by turn, donc la possibilité d'avoir des indications précises par le GPS pour trouver son chemin. Le partage de la connexion Internet via Bluetooth ou USB, pour lequel les opérateurs comme Orange ou AT&T aux États-Unis ne manqueront pas de nous faire payer une somme supplémentaire.
Bien sûr.
Voilà, bon, ce qui est un petit peu normal en même temps. Et la sortie de l'iPhone OS aura lieu le 17 juin, donc c'est bientôt. Et pour ce qui est de l'appareil en lui-même, de l'iPhone version 3GS, S comme speed, comme tu le disais, Yann, il sera 2 à 3 fois plus rapide dans le lancement des applications, dans la vitesse du processeur en elle-même. Il aura un appareil photo de 3 mégapixels avec autofocus et enregistrement de vidéo, ce qui est sympa. 3 mégapixels, c'est pas énorme. Mais s'il est bien géré, ça peut être de la qualité correcte, alors qu'aujourd'hui l'iPhone est relativement moyen. Il y avait un truc marrant aussi, c'était le voice control, genre on dit call Yann, enfin appeler Yann ou jouer, mais ça c'est classique dans les téléphones, c'est-à-dire appeler Yann, appeler un tel, raccrocher, etc. Mais il y a aussi des choses du genre passer plus de chansons comme celle-ci pour l'iPod, donc ils étendent un petit peu l'utilisation. Ça, c'est marrant. Et le compas qui permet de donner, en plus du GPS qui donne la position, le compas permet de donner l'orientation, ce qui est quelque chose de très intéressant. Et il sera disponible pour, pour $199 pour une capacité de 16 gigas et $299 pour une capacité de 32 gigas. Et il sort le 19 juin, a priori, dans le monde entier. Sachant que l'ancien, l'iPhone 3G classique, qui reste assez bon, est toujours disponible pour $99. Donc on a vraiment 3 étapes et on a un iPhone, même si c'est l'ancien, qui est très performant. Et qui est à un prix qui devient carrément intéressant, $99.
Ouais, ça fait très très mal pour le Palm Pre. Ça, on a vraiment l'impression que ils ont vraiment bien joué leur coup là, puisque le Palm Pre, je crois qu'il va sortir. Il est à combien, Jeff? Je sais plus les prix qui sont pratiqués. Je sais qu'il est sorti il y a 2 jours.
Avec le plan et un rebate, tu l'as à $199 aujourd'hui. Mais le plan, c'est un plan de 2 ans où la souscription minimum, c'est genre de $70 par mois.
Mais ça sera le cas aussi pour l'iPhone, a priori. Hein. Ça sera toujours avec abonnement.
Oui, tout à fait, tout à fait.
Donc voilà, on sait que Jeff va se précipiter sur tout ce qui a un petit logo Apple. Yann, toi, tu es intéressé par ce nouvel iPhone ?
Non, pas du tout. Moi, c'est plutôt l'OS 3.0 et je suis bien content d'ailleurs qu'il soit gratuit pour les possesseurs d'iPhone. Malheureusement, ceux qui possèdent un iPod Touch vont devoir payer $10. Bon, c'est pas grand-chose, mais c'est un petit peu dommage qu'il y ait cette différence au niveau de la possibilité d'acquérir cet OS 3.0. Mais non, honnêtement, j'ai pas été convaincu par le côté 3GS. Les features qu'ils ont annoncées, bon, ça faisait un petit peu gadget et non. C'est plutôt l'OS, le copier coller, le partage de connexion, le côté TomTom, ça c'est des features que j'attendais. J'attendais énormément aussi l'annonce de Flash. Malheureusement, c'est pas arrivé et c'est dommage puisque ça arrive sur Palm Pre. C'est précisément la raison pour laquelle je vais prendre également
aussi un Palm Pre.
Voilà, exactement. Mais voilà quoi. Non, le 3GS, non, j'ai pas été séduit.
Je pose une question à la chatroom. Vous, est-ce que vous avez été convaincu par cette annonce du nouvel iPhone ? Et pendant ce temps, je vous dis que moi, je vais acheter certainement, enfin, j'aimerais acheter le nouvel iPhone, mais c'est parce que moi, j'ai une ancienne génération. Je pense que ceux qui ont l'iPhone 3G, à moins que ce soit de véritables fous de l'iPhone, et il y en a, et c'est tout à fait compréhensible, hein, il apporte quand même des choses en plus, mais à moins que vous soyez véritablement un fou de l'iPhone, c'est peut-être pas nécessaire d'en acheter cette nouvelle version. Et j'ai l'impression que dans la chatroom, l'immense majorité des gens disent qu'ils n'ont pas été convaincus par cet iPhone, et je crois que beaucoup de gens ont été déçus qu'on n'ait pas un netbook ou une tablette tactile ou un truc du genre. C'était un petit peu décevant à ce niveau-là.
Moi, je suis pas d'accord.
D'accord.
Parce que la tablette tactile, de toute façon, c'est du gadget, à mon sens, et le netbook, je suis pas convaincu en termes de produit. C'est-à-dire que moi, j'ai une tablette de chez IBM, ça, ouais, une X41, et en fait, j'utilise jamais en tablette, j'utilise comme un laptop normal. Et le netbook, effectivement, c'est un prix d'appel, c'est un prix d'entrée, mais tu vois, autant la Crunchpad, la tablette de monsieur Harrington peut avoir des utilisations intéressantes, autant un netbook, je suis pas convaincu.
Mais qu'est-ce que tu penses de l'iPhone en lui-même ? Est-ce que tu le conseillerais à quelqu'un qui a déjà un 3G de changer pour une nouvelle version ?
Je pense que si tu es un gros utilisateur de l'iPhone, c'est-à-dire que tu fais pas mal d'emails, d'utilisation, des applications, etc., avoir une nouvelle version qui t'amène 2 à 3 fois de plus rapide sur les applis, ce sera vraiment bien. Et aussi, je pense qu'avoir de la vidéo, c'est cool. Donc, je suis d'accord avec toi, c'est pas complètement nécessaire. Moi, j'ai le 3G que j'ai acheté tout de suite après qu'il soit sorti.
Et ça donc, donne le ton.
Celui-là, moi, et, voilà. Et donc celui-là, en gros, je vais le donner à ma chère étendre de manière à ce qu'elle ait un 3G pour que ça aille un peu plus vite sur le surfing. Je dis pas que c'est vraiment nécessaire. Je pense que pour moi, ce sera vraiment bienvenu. Parce que d'accord. Je souffre en fait de la lenteur de l'iPhone quand j'ai 36 000 apps qui sont lancées. Au bout d'un moment, t'as l'OS qui commence à vraiment bouffer pas mal de mémoire.
Et, ouais, il faut le redémarrer régulièrement.
Voilà, tout à fait. C'est pour ça qu'il te rappelle un peu un device Microsoft. Hein, parce que si tu le rebootes pas, au moins tous les deux jours, tu commences vraiment à être pénalisé. Donc j'attends ce 3GS avec impatience.
D'accord. Autre petite info qu'on a eue à un moment, un petit peu avant la présentation, c'était le fait que Steve Jobs va effectivement revenir à la fin du mois de juin à Apple. Vous vous souvenez sans doute qu'on vous avait dit que Steve Jobs avait des problèmes de santé et qu'il prenait 6 mois de vacances pour se reposer. On avait spéculé, nous et d'autres, à ce moment-là, qu'il n'était pas impossible qu'il ne revienne pas à Apple et que c'était peut-être la fin de la suprématie de Steve Jobs à Apple. Et là, il a été confirmé à plusieurs reprises qu'il allait bien revenir et que ses problèmes de santé étaient en voie de rémission, ce qui est une très bonne nouvelle pour lui. Certains avaient spéculé du fait qu'il serait présent lors de la présentation. Et moi, mon analyse de la chose, c'était que, en fait, au moment où il est parti où il a annoncé qu'il avait des problèmes de santé, etc. Beaucoup de gens avaient été un petit peu inquiétés pour Apple et pour l'avenir d'Apple parce que Steve Jobs incarne tellement l'innovation et les choses intéressantes qu'il y a chez Apple que ça posait carrément des questions par rapport à ça. Et je pense qu'ils ont appris beaucoup de choses de cette réaction et ils essayent de montrer qu'Apple n'est pas totalement dépendant de Steve Jobs et que donc ils vont parce qu'un jour Steve Jobs ne sera plus là, que ce soit dans un an, cinq ans, dix ans, ce que c'est, il y a bien un moment où il va devoir quitter la société et donc ils essayent vraiment de la faire de la jouer très très calme sur son retour. Je pense qu'il va revenir sans tambour ni trompette, il va arriver un jour, il va revenir dans son bureau et travailler. Et ils essayent de montrer que la société fonctionne sans lui et qu'elle pourra fonctionner le jour où il sera vraiment plus là, quoi. Je pense que c'est quelque chose de stratégiquement très important pour eux. Donc, et effectivement, il n'était pas là.
La grosse question, en fait, c'est quelle est la capacité d'Apple à rentrer dans les nouveaux segments. C'est-à-dire que si tu regardes les annonces d'aujourd'hui, ce sont des améliorations de produits existants. L'iPhone, la catégorie donc de MacBook. Ce que l'on n'a pas, c'est Apple qui rentre sur un domaine complètement nouveau. Et la grosse question, en fait, c'est quelle est la capacité d'Apple sans Steve Jobs à la tête de rentrer sur quelque chose qui est complètement différent.
Ben c'est pour complètement ça qu'il... nouveau.
Je sais pas si c'est ta tablette. mais effectivement, tu pourrais dire qu'est-ce que ça veut dire l'Apple tablette sans un Steve Jobs. Oui. Et effectivement, c'est un souci aujourd'hui de la boîte parce que ils sont organisés autour de Steve. T'es un petit peu la cour du roi.
Oui, c'est
et
ça.
Ils doivent être capables en fait avec le dauphin de continuer à développer la boîte. Quoi. La chose que j'ai notée. Que je voulais mentionner aussi, c'est que en deux ans, donc ils ont mentionné ça, en deux ans, on est passé de 25 à 75 millions d'utilisateurs d'OS 10, ce qui est quand même très notable.
Ah oui, effectivement, ça fait une augmentation phénoménale même. Ça fait vraiment beaucoup. Bon, il n'y a pas de doute qu'Apple est en train de gagner des parts de marché très régulièrement, hein, ce qui est une performance très impressionnante.
Ouais, mais bon, quand on est aussi bas, c'est pas difficile de grappiller,
c'est,
quoi.
C'est un commentaire spécial pour Mathieu, ça, je pense.
Dédicace.
Bon, on va passer notre sujet suivant qui est l'E3. L'E3, c'est quoi pour ceux qui ne connaissent pas? C'est l'Electronic Entertainment Expo qui avait lieu la semaine dernière et c'est la plus grande exposition du monde de jeux vidéo. Il y a beaucoup de gens qui argumenteront. Merci.
Qui argumenteront.
Mais je voulais dire arguer, pas argumenter. Non, non, mais je voulais dire arguer, pas argumenter, en fait. Bref. qui diront que Tokyo Games Conference... Merde, c'est laquelle? Je sais plus, je perds tout aujourd'hui. Bref, qu'il y a soit à Leipzig, soit à Tokyo, des conférences qui sont plus grosses. Moi, je pense que c'est vraiment celle-là qui est la plus importante parce qu'elle réunit à la fois les éditeurs et les constructeurs japonais, européens et américains. Donc, elle avait lieu la semaine dernière et il y avait énormément de choses intéressantes. Les trois événements principaux sont les trois conférences de presse des grands constructeurs de consoles qui ont lieu les deux premiers jours. Alors il y avait Microsoft, Nintendo et Sony qui présentaient leurs nouveaux produits. Donc Microsoft avec la Xbox, Nintendo avec la Wii et Sony avec la PSP et la PS3. Alors on va commencer par une petite analyse de la présentation de Microsoft et je vais laisser Yann parler parce que je crois que tu as été très impressionné par ce qu'ils ont montré, Yann.
Ah, c'est un euphémisme, effectivement, j'ai été très impressionné, j'ai pas été le seul d'ailleurs, je pense que pas mal de professionnels dans le milieu ont été séduits par ce qu'a annoncé Microsoft, donc bien évidemment il y a eu donc, un florilège d'exclusivité et de jeux très très impressionnants qui ont été annoncés, je pense notamment au jeu Splinter Cell qui était vraiment sensationnel, mais ce qui a vraiment marqué tout le monde, c'est le projet Natal, qui est un projet qui avait déjà, enfin il y avait déjà eu des fuites sur Internet où on en avait même déjà parlé d'ailleurs sur le rendez-vous tech, qui est le projet de Microsoft qui consiste globalement à inventer ou plutôt à mettre aux mains des joueurs un nouveau dispositif qui va permettre d'analyser les mouvements du joueur, voir comment il se déplace, comment il bouge, capter simplement ses mouvements sans aucun appareil. Globalement, c'est une caméra qui vous observe.
Et une sorte de barre qu'on pose sur la télé qui inclut deux caméras et une caméra infrarouge, je crois.
Exactement. Ça ressemble vraiment beaucoup à la petite barre de la Wii que vous positionnez juste au-dessus de votre téléviseur ou juste en dessous. C'est effectivement deux caméras plus un détecteur laser pour pouvoir détecter la profondeur. Et ils ont fait une démonstration.
Ça fait peur, ils vont nous tirer dessus.
Oh, je sais pas, on verra bien, mais je pense qu'ils ont besoin de nous pour pouvoir passer à la caisse, donc ils vont pas nous tirer dessus. Mais ce qui est certain, c'est que la démonstration qu'ils ont faite était vraiment bluffante. Ils ont fait deux petites démonstrations sur une nana qui bougeait, qui arrêtait des ballons. C'était vraiment de l'ordre de démo tech. Hein. Il y avait pas de jeux qui utilisaient vraiment de jeux qui sont commercialisés aujourd'hui dans les magasins qui étaient mis en démonstration avec ce nouveau périphérique. Qui, je le rappelle, s'appelle donc le projet Natal. Je pense que c'est un nom de code, mais ça n'en demeurait pas moins exceptionnel et vraiment séduisant. Il y a eu des journalistes d'ailleurs qui étaient très 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 sceptiques par rapport à ce qu'on leur montrait, parce qu'ils ont diffusé des vidéos, enfin des spots publicitaires qui ressemblaient comme deux gouttes d'eau aux spots qu'on voit pour la Wii d'ailleurs, hein. Et donc tout le monde était très très sceptique, et Microsoft donc a invité behind closed door des journalistes pour qu'ils puissent tester eux-mêmes, et c'est unanime, tout le monde disait ce qui ressort. C'est ce qui ressortait le plus souvent, c'est exactement comme Microsoft l'a annoncé, c'est exactement comme la vidéo. Ils ont été tous bluffés par la précision et la facilité avec laquelle ils ont pu prendre en main donc le dispositif. Ça réagissait vraiment au doigt et à l'œil, sans faire de jeu de mots. Et donc voilà quoi. Donc c'était vraiment sensationnel.
Ce qu'il faut dire quand même, c'est que la raison pour laquelle les gens étaient aussi impressionnés par cette idée et y croyaient aussi peu, c'est que le dispositif est tellement précis qu'il est capable de distinguer les mouvements que vous allez faire avec vos mains. Genre par exemple, si vous fermez le poing et que vous le mettez au-dessus de votre paume de l'autre main ouverte et que vous appuyez simplement du poing sur la paume de la main, il va pouvoir détecter ça et voir que vous avez activé quelque chose avec ça. Donc en l'occurrence, il y avait une démonstration qui disait c'est dans un jeu où on va appuyer sur le buzzer de cette manière. Il y avait aussi quelqu'un qui était en train de conduire une voiture et il avait simplement ses mains devant lui et il faisait le mouvement avec le mouvement qu'il ferait avec un volant, et il pouvait repérer ça, mais d'autant plus qu'il pouvait repérer ses mouvements chez différentes personnes qui étaient dans la pièce, et que même s'il n'y avait pas un fond uniforme ou que vous portiez des vêtements de différentes couleurs, etc., il pouvait malgré tout reconnaître tous ses mouvements. Et ça, c'est d'une telle précision qu'on en vient à se poser un petit peu la question de savoir si c'est même possible, surtout que c'est presque un concept qu'ils ont montré. Le matériel visiblement est prêt, mais ils ont montré des vidéos qu'ils appellent des target vidéos, c'est-à-dire des vidéos de ce qu'ils voudraient obtenir au bout du compte. Et il faut savoir que l'appareil ne sera pas disponible avant, on ne sait pas, mais peut-être pas avant 2010, peut-être même plus tard.
Ils ont dit 18 à 24 mois, donc c'est pas un truc que tu verras demain. Mais il y a un truc aussi que j'avais lu qui était assez intéressant, c'était qu'un journaliste d'LCI avait été invité donc pour une démonstration privée, et il disait que dans le test, il a demandé à ce qu'on éteigne toutes les lumières. Donc c'était le noir complet et le truc marchait impeccable quoi. Et donc c'était vraiment bluffant, et c'est vraiment très très bizarre, parce qu'on se dit qu'il y a des caméras qui nous observent, et on en reparlera plus tard, mais donc Sony a fait une démonstration similaire avec un système similaire, et Microsoft a bien insisté sur le fait que son système à lui, contrairement à l'EyeToy de Sony, n'était pas dépendant de l'intensité lumineuse qu'il y avait dans la salle dans laquelle on jouait, parce que toutes les démonstrations des autres constructeurs, ben, c'était dans des conditions idéales, et là, toutes sortes de perturbations étaient gérées par le truc. Tu peux être en train de jouer et quelqu'un passe devant toi, et ça ne perturbe en aucun cas le jeu. Vous pouvez être à 3 à gigoter, le truc il te capte dès le début de la partie. D'ailleurs, dès que tu te places devant la caméra, il te dit salut Yann, comment ça va, donc reconnaissance faciale et reconnaissance vocale. Donc franchement, il y a mille et une raisons pour lesquelles on pourrait dire que ce projet est vraiment révolutionnaire, j'attends vraiment avec impatience.
Moi je pense que la première idée que les gens ont quand ils voient un truc comme ça, où on va dire vous contrôlez la machine avec votre corps, ils vont calquer les contrôles sur ce qui existe déjà, c'est-à-dire qu'ils vont se dire au lieu d'appuyer sur un bouton sur ma manette, je vais bouger la main pour activer la même fonction. Et la véritable force d'une interface comme celle-là, c'est que ça fait de la console et de votre écran de télé une fenêtre sur un autre monde. C'est-à-dire que c'est pas simplement qu'on va pouvoir contrôler la manette en bougeant la main au lieu d'appuyer sur un bouton, c'est que l'ordinateur, la console, va savoir que vous êtes là, va savoir ce que vous faites, va vous entendre, parce qu'il y a aussi, comme tu le dis, un micro, et l'interaction va changer de nature. Par exemple, il y avait une démonstration qui était faite par Peter Molineux, si je ne m'abuse, qui présentait un jeu où il y avait un jeune garçon qui était dans un paysage un petit peu idyllique, avec un lac et une prairie.
Une balançoire. Ouais.
Voilà, un truc comme ça. Et quand on arrivait devant la télé, ce jeune garçon nous reconnaissait. Il disait « Ah, salut, comment ça va ?» Et on s'approchait un petit peu de l'écran. Et quand on se penchait sur le lac, il y a un truc qui était super impressionnant, c'est qu'on se penche vers le lac et au fur et à mesure qu'on s'approche de la surface lisse du lac, eh ben, on se voit carrément dans la réflexion. Enfin, on voit notre réflexion dans le lac. Et si on passe la main devant l'écran, la surface du lac se trouble et on voit notre réflexion dans le truc. Enfin, ce qui est vraiment impressionnant, c'est les possibilités que ça ouvre, ce truc-là, et pas simplement le fait qu'on puisse le contrôler de manière différente. Je pense que le meilleur moyen que j'ai trouvé d'expliquer comme ça devient intéressant, c'est que ça donne à votre ordinateur, votre console, ce que c'est, des yeux et des oreilles. Et à partir de là, s'il peut vous voir et vous entendre, le rapport à la machine change complètement. Et si véritablement ils réussissent à l'implémenter de manière convaincante, comme même les plus sceptiques ont l'air de dire que c'est le cas, ça pourrait donner quelque chose de très très impressionnant.
Un petit bémol quand même, hein. Au niveau de la démonstration dont tu parlais là, de Peter Molineux avec Milo, je crois que c'est comme ça qu'il s'appelle, le petit garçon qui était allumé, ouais. Milo, voilà, c'était clairement du fake en ce qui concerne l'interaction qu'il y avait entre le joueur et la personne qui était animée. On sentait tout de suite qu'il y avait des trucs qui étaient utilisés, parce que on avait vraiment une conversation. Ouais, salut Nemo, comment ça va? Ouais, ça va bien. T'as fait quoi aujourd'hui? Ben aujourd'hui j'ai fait ça. Les gens réalise pas, mais ça demande une reconnaissance et une intelligence artificielle telle que c'est tout simplement impossible. Donc il y a un petit peu d'abus quand même dans cette vidéo, mais ça c'était quand même très très prometteur. Et quand même Peter Molineux qui était derrière, c'est quand même prometteur, quoi.
Il faut quand même préciser, comme tu le dis, que là on s'emballe et on est en train de dire ah, oh, c'est merveilleux, c'est fantastique, c'est révolutionnaire. C'est quand même un prototype qui ne verra pas le jour avant un an et demi à deux ans, donc
tout à fait.
Restons un tout petit peu prudents, c'est encore que du vent, il faut vraiment le préciser. Il y a rien qui est encore disponible, et même pas le développement n'a même pas véritablement commencé, c'est qu'un prototype. Et
oui mais je pense que c'est clairement une vision du futur que l'on a vu avec cette nouvelle interface. Et est-ce que ça va prendre 2 ans, est-ce que ça va prendre 3 ans, est-ce que ça va prendre 5 ans, c'est extrêmement compliqué ce qu'ils veulent faire, mais c'est clairement la façon dont on va interagir avec les machines, avec les consoles de jeux, et je pense avec beaucoup de devices dans le futur. Et c'est Minority Report, l'interface où on va bouger les mains, etc., qui se pointe devant nous pour le grand public, et je trouve ça vraiment super.
Ouais, c'est comme je le disais, moi, le meilleur moyen que j'ai trouvé pour le décrire, c'est nos ordinateurs ou nos machines ou nos consoles auront des yeux et des oreilles. Enfin, s'ils réussissent à faire ce qu'ils veulent. Une autre série d'innovations qui ont été annoncées à cette conférence, c'était le fait qu'il va y avoir Facebook et Twitter sur l'interface Xbox Live. Et là, je vois les gens qui commencent à rire en coin et à dire ah ah ah, j'ai vraiment besoin d'avoir Twitter sur mon sur ma Xbox, c'est n'importe quoi. Mais là encore, il faut imaginer des utilisations un petit peu innovantes. Par exemple, avec Facebook, imaginez que vous puissiez envoyer des photos du moment où vous avez battu votre pote sur tel ou tel jeu de combat ou sur tel ou tel jeu de tir. Vous pouvez envoyer une photo directement de ce moment-là à tous vos amis sur votre réseau Facebook. Là, ça peut être quelque chose de marrant et une vraie valeur ajoutée, à mon sens. Moi, je ne serais pas forcément client, mais ça peut donner des utilisations intéressantes. Et il y a aussi Netflix et Last.fm qui sont des services de location de films et de radio qui vont être intégrés, ce qui fait de la machine quelque chose de véritablement multimédia pour la télévision. Il reste plus à Microsoft qu'à avoir une machine qui ne fait pas un bruit de 747 au décollage.
Ah ouais, c'est vraiment pénible. Mais j'ai vraiment été déçu pour le coup de Netflix, parce que au début, quand le gars il commence à parler, il dit oui, alors on a lancé Netflix aux États-Unis avec l'Xbox, c'est génial, tout le monde adore, etc. Mais bon, c'était dommage parce que c'était juste aux États-Unis, donc on a décidé de passer à un point de vue mondial maintenant. Donc tu t'attends, tu trembles et tout, tu dis Netflix en fait en France, etc. Ben non, en fait, c'est juste au Royaume-Uni, où ils se sont accordés avec Sky ou je sais plus comment ils appellent ce truc là, mais toujours pas de Netflix avec l'Xbox en France, et c'est vraiment dommage quoi. La StFM c'est sympa, mais bon, j'aurais bien aimé avoir un Netflix ou équivalent pour la France quoi. C'est un petit peu déçu à ce niveau.
Est-ce que tu crois que c'est essentiellement de la faute de Netflix ou c'est de la faute des opérateurs français?
Je pense que c'est un problème avec les majors et Netflix quoi. Ils veulent pas que leur contenu soit distribué comme ça en streaming gratuitement, ou enfin pas gratuitement, mais je crois qu'en France ils sont très d'abord au cinéma et ensuite en DVD, et puis quand on a utilisé tous les réseaux possibles pour pomper un maximum de pognon, là on va le balancer sur M6 ouais, et sur TF1.
Il y a clairement une question de droit, je pense hein. C'est le fait que s'il est disponible, mais ils pourraient faire une contrôle des droits en fonction des régions aussi, ça serait possible hein. Surtout avec l'interface contrôlée de la Xbox, mais ça viendra peut-être.
J'aimerais bien.
Nintendo, c'était la deuxième conférence à laquelle on a assisté. Entre parenthèses, pour toutes ces conférences aussi, on avait fait des streamings live sur toujours Tiny Chat avec 10 ou 12 personnes en même temps en train de discuter et plein de personnes dans les chatrooms. C'était très très sympa. Vous pouvez nous suivre sur Twitter si vous voulez y assister la prochaine fois qu'on en fait une. Nintendo... Là, je vais peut-être prendre la chose pour dire que... Oh non, Yann, vas-y, dis-moi ce que... Moi, je sais ce que j'en ai pensé, dis-moi toi.
Ah non, c'était nul. Franchement, c'était soporifique, on s'auto-congratule, on est les meilleurs, on a vendu des millions de Wii.
Mais ce qui est vrai, ils ont raison, c'est eux qui vendent le plus de consoles.
Ouais, mais voilà, t'étais là pour pouvoir vendre du rêve, pas pouvoir vendre des charts ou des camemberts et des trucs comme ça, quoi. Et donc, au final, t'as pris une claque phénoménal avec la présentation de Microsoft, avec des jeux qui sont alors le Forza 3, etc., qui t'ont vraiment coupé le souffle. Et après, tu rentres dans une conférence de Nintendo où on te sort un Mario qui ressemble à un Super Mario qui ressemble au Super Mario qu'il y avait sur Super NES. Et on te dit, ouais, vous allez pouvoir jouer à 4. Génial. Et puis, alors, tu dis, en fait, le truc qui s'est passé avec la conférence Nintendo, c'est que tu te dis que ça va être comme toutes les conférences, comme la conférence Apple et Microsoft, c'est qu'ils commencent petit. Et qu'au fur et à mesure, ils vont garder le plus gros pour la fin. Sauf qu'ils ont commencé petit et c'est resté au même niveau, quoi. Donc, aucune annonce phénoménale. Ils ont parlé de Mario Galaxy 2. Ils ont parlé vaguement du Zelda, mais pas de nouvelle console. Tout le monde est en train de dire que la Wii est immonde sur un écran HD. On ne parle pas de Wii HD. On parle pas de nouvelle console, de nouveaux périphériques. On a vu que Microsoft a sorti le projet Natal. Ben, ils vont peut-être nous remplacer le Nunchuk là par, ne serait-ce qu'un Nunchuk wireless. Tu vois, la petite corde là qui te raccorde les deux trucs. Ça te gêne dans tes mouvements. Enfin, on attendait vraiment beaucoup de choses, quoi. Il y a des trucs que Microsoft peut faire. Il y avait des possibilités de faire des trucs, mais non, on est les meilleurs et c'est incroyable, mais la Wii, elle est sortie à 250 €, elle est toujours à 250 €, pas une baisse de prix annoncée, rien du tout. C'est
Ils en vendent beaucoup, ils n'ont pas de raison de baisser le prix.
Ils sont soldats en permanence, pourquoi est-ce que tu veux qu'ils descendent leur prix? Ils n'ont pas besoin.
Bah, disons oui,
ils n'ont pas un problème d'érosion sur leur marché, ils peuvent continuer à avoir ce prix.
On est d'accord. Ce qui est clair, c'est que la présentation était soporifique. Hein. Certains ont dit, les plus enthousiastes ont dit que la présentation était meilleure que celle de 2008, mais en même temps, c'était pas très dur. Avec, pour ceux qui s'en souviennent, il y avait eu la présentation de Wii Music qui était risible. Je crois que c'est le seul jeu présenté par Miyamoto, le créateur de Mario, qui n'a pas séduit les foules, mais il était vraiment risible. Là, c'était à peine mieux. Il y avait donc effectivement, comme tu le dis, un nouveau Mario Galaxy en 3D, un nouveau Zelda, un nouveau... quelques nouveaux jeux, un petit peu plus destinés aux joueurs, plus qu'aux vrais casual, aux vrais joueurs occasionnels, mais la présentation était très faible. D'ailleurs, je vous propose qu'on passe pas plus de temps là-dessus, on était déçus.
Absolument,
et puis,
je suis entièrement d'accord.
Voilà, il y avait le Wii Motion Plus. Si, un petit truc quand même pour dire qu'on était encore plus déçus. Le Wii Motion Plus, qui est ce petit accessoire qu'on ajoute à la manette, à la Wiimote, qui fait qu'elle est plus précise. Et là où c'était décevant, c'est que Nintendo nous livre aujourd'hui, deux ou trois ans après, ce qu'il nous avait promis avec la Wiimote, c'est-à-dire avec ce petit accessoire supplémentaire, alors que Microsoft et Sony nous livrent des choses qui vont bien au-delà de... Enfin, nous présentent des projets qui vont bien au-delà de ce que représente la Wii aujourd'hui. Donc, c'est pour ça peut-être qu'ils étaient très, très en retrait au niveau de la présentation.
Mais je vais quand même juste rajouter un truc pour la défense de Nintendo. Microsoft et Sony ont clairement montré pendant le 3 que eux ils font un pari sur la durée, qu'ils ont lancé des consoles qui planifient avec une durée de vie de 10 ans à peu près. Microsoft pense qu'ils vont tenir avec la 360 jusqu'en 2015, je crois. Donc ils sont vraiment sur du long terme. La Wii, elle commence sérieusement à s'essouffler. Donc si ça se trouve, je me dis que Nintendo, eux, ils vont peut-être sortir une console pratiquement 3-4 ans avant que Sony et Microsoft ne dégainent, et qui, donc, technologiquement parlant, sera bien plus supérieure à ce que propose la concurrence. Et donc, du coup, ils risquent de prendre encore plus d'avance fort de leur savoir et de leur parc avec la Wii. Et donc, c'est un des scénarios auquel je pensais et qui risque de se créer, quoi, puisqu'ils vont pas pouvoir tenir encore 7 ans avec la Wii. Ouais. C'est absolument impossible.
C'est sûr, et d'autant plus que là, les projets présentés par Microsoft et Sony seront disponibles a priori pas avant un an et demi. Il est pas impossible que Nintendo, au prochain E3, l'année prochaine, présente quelque chose de vraiment intéressant et qui soit disponible tout de suite, et ils arriveraient dans les temps pour concurrencer ces fameux projets. Jeff, je te pose aussi la question sur Nintendo avant qu'on passe à Sony.
Non, moi, comme tu sais, je suis pas un fanat des consoles, donc j'ai suivi ça et effectivement, ça avait l'air complètement ridicule.
D'accord. Bon.
Aucun commentaire.
On revient quand même à notre impression générale qui était... notre impression générale et officielle, vous pouvez nous citer là-dessus, l'impression générale et officielle de du rendez-vous tech sur la conférence de Nintendo, c'est... Voilà.
Bonne chance pour nous citer. Hein, voilà. Bonne chance pour nous citer. Fais confiance pour l'orthographe.
Et donc, la deuxième conférence intéressante, c'était celle de Sony, où ils ont présenté en fait deux choses véritablement intéressantes. La première, c'était la PSP Go, qui est une... la PSP, vous la connaissez bien sûr, c'est la console portable de Sony, la PlayStation portable. Et là, c'est une version de cette console sans ce lecteur de disque UMD qui est complètement ridicule et qui n'a aucun intérêt, et qui va permettre donc de télécharger tous les jeux directement sur la console, donc elle sera extrêmement connectée. Et l'autre nouveauté, c'est la forme de la console, le modèle de la console, qui est beaucoup plus petite et qui a l'écran qui glisse vers le haut pour révéler la manette qui est dans l'intérieur de la console. Donc elle est beaucoup plus compacte, beaucoup plus légère et beaucoup plus sexy, beaucoup plus séduisante. Ça, il faut bien être honnête, c'est vraiment une machine qui, pour le coup, devient une véritable portable.
Deux petites déceptions quand même pour la PSP Go, je me permets de te couper. C'est juste que beaucoup de joueurs s'attendaient à avoir un dual stick analogique. On espérait beaucoup à ce niveau-là, exactement comme la DualShock de la PS3. Finalement, il n'y en a pas eu. Et puis surtout, ce qui choque beaucoup les joueurs, c'est que Sony sort une PSP Go en misant très très fort sur le fait de pouvoir télécharger ses jeux sans passer par une AMD ou autre. Et finalement, ils livrent cette PSP Go avec 16 gigas d'espace. Et donc, 16 gigas, quand tu vois qu'un jeu PSP, ça fait facilement 2 gigas, enfin 1 giga, 5, 2 gigas, tu dis que tu vas pas aller très très loin, quoi. Et que forcément, alors je sais pas s'ils vont encore nous sortir des mémoires propriétaire avec des prix exorbitants, mais je trouve ça un petit peu dommage.
Il y a un port mémoristique qui permettra d'étendre la mémoire assez facilement avec des mémoristiques, effectivement. Mais bon, C'est vrai que la mémoire interne n'est pas énorme. Ouais. Et à vrai dire, l'autre déception, c'est le fait que la PSP Go, qui sera disponible normalement à l'automne, est à un prix assez élevé de 250€. Pour une petite console portable, c'est le prix de la Wii, quoi. Donc, ça reste quand même assez cher. Mais la PSP classique restera en vente. Moi, l'impression que j'ai eue, c'est qu'ils ne voulaient pas non plus trop la mettre en avant parce que il faut savoir au niveau de l'industrie que cette arlésienne du téléchargement de jeux directs sur vos machines a été combattue bec et ongle par les distributeurs, ou plutôt les vendeurs de jeux vidéo, donc les chaînes de magasins hein, comme GameStop aux États-Unis ou Score Games ici en France ou Micromania, ce genre de choses, parce que évidemment ça les met hors circuit complètement. Ouais, on achète les jeux directement sur la machine, et en plus un jeu téléchargé ne peut pas être vendu d'occasion, et toutes ces chaînes de magasins font une immense partie de leur beurre sur la revente de jeux d'occasion. Et là, c'est un moyen pour les développeurs de court-circuiter complètement tout ce marché contre lequel ils se battent depuis des années et des années. Et donc, s'ils y vont trop à fond, je pense qu'il y aura une révolte de la part des magasins en dur, hein, le brick and mortar, comme on les appelle, les magasins physiques. Et ils sont en train de s'insinuer peu à peu, je pense, sur ce segment. Donc, peut-être que ce moyen de garder la PSP classique avec les UMD en même temps que la PSP Go est un moyen de dire non, mais vous voyez, on n'y va pas vraiment à fond, voilà, il y a encore l'autre, je pense.
Mais qu'est-ce que tu en penses, toi ? Tu penses, enfin, je pose la question également à toi, Jeff, mais vous en pensez quoi ? Vous pensez que c'est la suite logique des événements, c'est-à-dire que finalement, on doit évoluer vers du store numérique et que tout simplement, c'est tout à fait normal que d'ici 5 à 6 ans, que ces magasins physiques ferment, parce que c'est l'évolution naturelle des technologies ?
Moi, je pense qu'ils fermeront jamais complètement. Il y en aura toujours. Mais par contre, il est évident qu'il faut, à terme, qu'il y ait une véritable offre intéressante de commerce électronique pour ces jeux-là aussi. Il n'y a pas de raison qu'on s'emmerde à graver des CD, à les transporter dans des camions, à les stocker dans des magasins et à les vendre aux gens qui doivent se déplacer jusqu'au magasin. Alors qu'il est, c'est le même problème que pour la musique et le film et tout ça. Il devrait être possible de les obtenir électroniquement aussi. À mon sens, Jeff, t'auras peut-être un autre avis avec un œil de professionnel de l'industrie de l'informatique.
Bah non, moi je dirais il faut justement que ça aille encore plus vite, c'est-à-dire que la destruction du modèle retail existant doit s'accélérer. Comme tu le disais, de toute façon, ils vont pas complètement disparaître, simplement ils devront trouver de nouvelles offres, une nouvelle façon d'attirer le client, parce que pour avoir, comme tu le disais très bien, accès à des informations électroniques via un réseau, le fait de devoir se déplacer et aller faire la queue à 11h du soir pour attendre la sortie de Botlek ou je sais pas quoi pour récupérer un CD alors que tu pourrais tout downloader, c'est n'importe quoi.
Et c'est même pas une question de modèle économique. Dans la chatroom, on dit Jeff Président, moi je suis assez d'accord. Et en plus, Revean dit écologiquement parlant, c'est aussi quelque chose de néfaste, et c'est tout à fait vrai, hein. C'est l'un des facteurs qui fait que, bon, il n'y a pas de raison qu'on continue avec ce type de méthode. Avançons un petit peu, le fameux accessoire, un petit peu comme la Wiimote de Nintendo, qui a été présenté par Sony, est un truc un petit peu bizarre, mais pour synthétiser les choses, c'était un accessoire qui était comme la télécommande de la Wii, qui est un petit peu plus massif, avec une sorte de boule lumineuse au bout, qui a les mêmes fonctions, mais qui a l'air 10, 15, 20 fois plus précis et 10, 15, 20 fois plus réactif. C'est-à-dire qu'on a une véritable immédiateté entre le mouvement qu'on fait avec cet accessoire et la réaction à l'image. Là encore, c'était principalement des démos techniques et non pas des jeux véritablement aboutis qu'on nous présentait, sachant que cet accessoire devrait sortir vers le printemps 2010. Mais là où c'était très impressionnant, par exemple, c'est qu'il y avait les démonstrateurs qui montraient quelqu'un qui avait deux de ces accessoires, donc un dans chaque main, et qui faisait pour un jeu, par exemple, l'un qui représentait un bouclier et l'autre une épée. Et quand il se déplaçait, il bougeait, il activait tenait l'épée. Enfin, il, c'était vraiment une représentation immédiate et très exacte de ce qu'il faisait. Donc, pour tout vous dire, moi, quand je l'ai vu débarquer avec son petit machin dans la main, là, lumineux, brillant, après avoir vu la démonstration très impressionnante de Microsoft avec le projet Natal, je me suis dit, oulala, le pauvre, il arrive, il fait la gueule. Ah, mais oui. Et en plus, il avait l'air un petit peu dépité, donc tout le monde se disait, il fait la gueule parce qu'il a vu ce qui s'est passé la veille chez Microsoft, et lui, il se rend compte qu'il doit venir présenter son petit truc pourri, là.
Qui ressemble à une télécommande. Qu'il a perdu à la courte paille et que c'est lui qui devait présenter.
Et au final, à la fin de sa démonstration, eh ben, j'étais plutôt convaincu, et c'était pas facile du tout de gagner l'audience à sa cause, et tout le monde était convaincu à la fin, je crois, hein, parce que le produit était tout à fait intéressant et avait l'air de fonctionner très très efficacement.
Donc, même s'ils jouent pas dans la même cour.
Effectivement, c'est pas tout à fait le même outil et le même type de cible, parce
clairement.
C'est pas le même fonctionnement, mais c'est tellement efficace et ça fonctionne tellement bien, en tout cas la démonstration qu'ils ont en fait, que on peut tout à fait s'imaginer s'amuser avec cet accessoire. Alors qu'au départ, on s'est dit, c'est une Wiimote version Sony et ça va être la même chose que ce que nous fait Nintendo, quoi. Donc voilà, il y avait également j'ai fait mon explication, mais peut-être que Jeff ou Yann, vous avez des choses à dire sur ce truc
spécifiquement. Je rajouterai un truc, mais une fois que tu auras terminé.
D'accord, donc il y avait effectivement l'autre chose qui était intéressante dans la présentation de Sony, c'était les jeux qui enfin arrivent sur Sony. Il y avait un line-up, une série de présentations de jeux qui étaient très impressionnantes. Il y avait des choses comme God of War 3, Uncharted 2, certains jeux qui seront aussi sur la Xbox comme Assassin's Creed 2, des choses comme ça, les amateurs connaîtront. Final Fantasy 14, moi c'est pas vraiment ma tasse de thé parce que j'ai j'ai soupé des jeux japonais, moi j'en ai marre, faire toujours la même chose avec la même gamine ridicule, le même crétin un petit peu emo avec ses cheveux longs et sa grosse épée qui est jamais content, enfin bon. C'est personnel, hein. Mais c'est tout de même un très gros jeu. Surtout que Final Fantasy XIII venait d'être véritablement présenté pour Microsoft. Là, ils ont présenté Final Fantasy XIV pour Sony. Il n'y a aucun doute qu'il ne sera pas exclusif, mais il n'empêche que c'était quand même assez intéressant. Et d'une manière générale, pour tous les autres jeux, en dehors de ces présentations-là, il y avait quand même une série de jeux assez intéressants comme Rock Band, Beatles, ou des jeux comme Alan Wake ou Heavy Rain ou des choses comme ça, qui montraient que l'E3 était très très efficace cette année. C'était une très bonne cuvée de l'E3, donc beaucoup de choses intéressantes à venir dans les mois qui viennent dans le domaine des jeux vidéo. Et un dernier jeu dont je voudrais parler, qui a passé un petit peu inaperçu pendant le salon en lui-même, mais qui après le salon a commencé à faire du bruit, c'est un jeu pour Nintendo DS qui s'appelle Scribble Notes, comme Cosmonaut mais avec Scribble, et Scribble ça veut dire gribouiller. Et le principe du jeu, c'est que c'est un jeu en deux dimensions, donc un jeu de plateforme classique, pas très beau, sauf que vous avez à chaque fois, à chaque tableau, un puzzle, vous devez arriver jusqu'à la sortie ou arriver jusqu'à l'objet que vous devez trouver. Et pour ce faire, vous pouvez par moment écrire un nom commun, hein, de grammaire, un nom commun, sur l'écran. Par exemple, vous choisissez d'écrire, cheval. Et ben, quand vous l'écrivez, un cheval va apparaître dans le jeu et vous pourrez vous en servir. Ça vous donnera un moyen de sortir du truc. Et ce qui était impressionnant, c'est qu'ils ont intégré une base de données de dizaines de milliers de noms et tous ont une efficacité dans le truc. Genre, j'entendais des rapports par rapport à ce jeu. Les gens, en fait, étaient invités par les développeurs à essayer de trouver des noms qui n'étaient pas inscrits dans le jeu. Il y a des gens qui ont carrément essayé de faire, d'écrire machine à remonter le temps. Et ben, c'était intégré dans le truc. Des gens qui ont écrit Twitter. Il y avait la fail whale, la fameuse Ah, whale, comme on dit whale en anglais.
La baleine. Hein.
Voilà, la baleine, baleine de
Twitter. Patrick, si t'arrives.
je sais pas ce qui se passe, j'ai fait trop d'anglais ces derniers jours. Tout ce à quoi on pouvait penser, si on écrit Scribble Notes, carrément, il y a un petit personnage de Scribble Notes qui apparaît, ils ont pensé à tout, et c'était une utilisation vraiment intéressante de la chose qui avait, qui valait le coup d'être notée, je pense. Ouais. Donc voilà pour le 3.
Il y a un truc aussi que moi j'ai noté pour cette E3, c'est qu'il y avait quand même un grand absent. Et c'est étrange que tu n'aies pas fait allusion à cet absent, mais moi j'étais certain de... Non, pas du tout. Ah. J'étais certain d'avoir une apparition de OnLive. Ah. Et finalement, grand absent. C'est bizarre parce qu'en plus, ils sont censés sortir en bêta cet été et en release cet automne et pas un mot. Donc personnellement je trouve pas ça très rassurant et la deuxième, je dis ça parce que voilà, c'est un petit clin d'œil à Patrick parce que lui il y croit dur comme fer et moi pas du tout, donc c'est juste pour pouvoir situer le truc. Et juste un autre truc que je veux faire remarquer, c'est que quand tu vois les présentations de Microsoft, Nintendo et Sony, ils sont clairement sur des systèmes d'interface qui sont sur la détection de mouvement, sur les Wiimote et trucs comme ça. Or OnLive lui se base sur une manette qu'on te file, donc typiquement, les jeux, oui, ben, tu les verras jamais sur OnLive. Les jeux qui vont arriver sur Natal non plus, ni les trucs de la Wiimote-like de Sony. Donc, c'est pas pour dire, hein, mais bon, moi, je le sens de moins en moins, ce truc. C'est juste un petit...
Je ne répondrai pas à ta provocation basse, mais j'avoue que quand même, effectivement, j'y avais pas pensé et je suis moi-même surpris de ne pas y avoir pensé. Donc, bon, quand même, un bon point pour Yann.
Le seul commentaire que je ferai, c'est parce que j'ai pas eu le temps de passer à E3, c'est que les quelques CEO de mon portefeuille qui sont passés à la conférence m'ont dit que de façon unanime, la conférence avait retrouvé son statut, c'est-à-dire que l'année dernière c'était vraiment c'était mort, il y avait vraiment pas grand monde et il y avait pas beaucoup d'annonces, alors que là ils ont vraiment trouvé qu'il y avait une grosse participation de la plupart des boîtes et énormément de monde et beaucoup de business, et donc c'était très ils étaient très bullish.
On est d'accord, oui, c'était vraiment une bonne fournée.
Mais moi, je pointerai sur une chose quand même, c'est que quand tu regardes les nouveaux développements de l'iPhone avec l'accéléromètre, le compas, etc., on va trouver en fait que l'iPhone est de plus en plus une plateforme de jeu où les développeurs vont pouvoir faire vraiment beaucoup. Et en fait, c'est là où c'est comme ça que Apple va se développer sur ce segment qui est déjà extrêmement porteur. Si on regarde le pourcentage de jeux qui sont développés et downloadés sur l'iTunes Store, enfin sur l'App Store, qui sont en majorité des jeux, je pense que c'est une traîne que l'on va voir de plus en plus.
Ah mais tout à fait, la tendance est très clairement engagée et c'est également en rapport avec ce qu'on disait tout à l'heure par rapport au commerce électronique et à la distribution de programmes et de biens de manière électronique. Là, c'est le modèle parfait en l'occurrence. Et à propos d'avancer dans le domaine électronique, on a une dernière nouvelle dont on voudrait parler assez longuement parce que c'était quelque chose de tout à fait intéressant, on va dire. C'est l'annonce qu'a fait Google d'un nouvel outil, d'une nouvelle plateforme. On ne sait pas très bien ni comment le définir ni comment l'expliquer, mais on va tenter. C'est une présentation qui a été faite la semaine dernière d'un outil qui s'appelle Google Wave. Alors, je vais me risquer moi-même à l'explication de ce qu'est Google Wave. Pour faire simple, ce qu'ils ont voulu faire, la manière dont ils l'ont expliqué chez Google, c'est qu'ils ont estimé que l'email était trop vieux. Et c'est quelque chose qu'on entend assez régulièrement dans les domaines technologiques, chez les journalistes, c'est que l'email a quand même été designé il y a 30 ou 40 ans. Le fonctionnement de l'email qu'on utilise actuellement, en fait, c'est une métaphore du courrier classique. On écrit un courrier, on l'envoie à quelqu'un, il le reçoit, il l'ouvre. S'il veut nous répondre, il doit réécrire un nouveau courrier, etc., etc. Donc ça a quand même ses limites. Et si on imaginait un système de communication aujourd'hui, avec les possibilités qu'on a en informatique aujourd'hui, les choses seraient certainement designées de manière très différente. C'est de cette base qu'est partie l'équipe en question qui a designé Google Wave. C'est l'équipe qui avait designé Google Maps, donc les cartes de Google qui ont changé la face de la carte sur Internet. Donc là, ils s'attaquent à quelque chose d'un petit peu plus gros. Alors, la manière dont ça fonctionne, leur outil, c'est que il y a une interface qui est un petit peu similaire à celle de votre email classique. Donc, vous avez une liste de messages. Quand vous cliquez sur l'un de ces messages, vous avez sur le pan d'à côté le message qui apparaît. Et vous pouvez taper votre message très simplement comme sur un email normal. Vous intégrez ensuite, vous n'allez pas envoyer ce message à quelqu'un, mais vous intégrez votre contact, vous l'incluez dans ce message. Ce qui fait qu'il va pouvoir le voir. Et il va pouvoir y répondre à la suite, par exemple. Et s'il écrit quelque chose à la suite de ce document, vous allez le voir également. C'est-à-dire que le document n'est pas quelque chose que vous avez envoyé, mais quelque chose que différentes personnes peuvent modifier. Donc non seulement il peut écrire quelque chose à sa suite pour y répondre, mais il peut également modifier quelque chose que vous avez déjà écrit vous-même. Et ça devient intéressant, c'est que les modifications se voient en temps réel. Mais quand on dit en temps réel, c'est même pas avec 3 secondes de décalage, c'est avec quelques millisecondes de décalage, vous allez voir le changement. Là où ça devient intéressant, c'est que vous pouvez ajouter évidemment plus d'une personne, chacun va pouvoir le modifier à loisir, et vous allez pouvoir non seulement répondre à la fin du document, vous allez pouvoir répondre au milieu, effacer quelque chose pour le remplacer par quelque chose d'autre. Vous allez pouvoir également mettre ce document intégré à une page web pour pouvoir vous en servir comme un truc de présentation qui va pouvoir être modifié par votre communauté, par exemple. Vous allez pouvoir également intégrer des participants à cette conversation qui vont pas être eux-mêmes des participants, mais des sortes de robots qui vont avoir des effets sur sur ce document. Par exemple, ils ont montré quelque chose comme le fait de modifier les mots automatiquement pour les traduire, donc ça fait une sorte d'aide à la traduction en direct. Vous pouvez intégrer des petites applications. Ils ont montré par exemple des applications comme un jeu d'échecs ou un jeu de morpion ou ce genre de choses. Et cet ensemble de technologies réunies fait que ça emprunte un petit peu de fonctionnalité de tous les différents outils qu'on a aujourd'hui, que ça les réunit en une place extrêmement compacte et pratique et bien conçue. Et ça lui donne une nouvelle utilité que les autres n'avaient pas. Et un des exemples qu'il donnait, parce que là tout ce que je dis est un petit peu obscur, mais c'était par exemple le fait que si je vous envoie, j'envoie à 3 personnes un message pour dire bon, est-ce que vous voulez aller au cinéma ? Aujourd'hui, si j'envoie un message à 3 personnes, chacun va répondre et au bout de 3 ou 4 renvois, on va plus savoir qui a répondu quoi à qui veut faire quoi. Là, rien de tout ça. Il suffit de faire une petite ligne « veux bien y aller », une autre ligne « n'est pas sûr » et une autre ligne « non, j'y vais pas » et les gens ajoutent leur nom là où il faut. Et le document ne s'allonge pas, il est simplement modifié et tout le monde peut le voir. Un autre outil qui est intéressant, c'est que ça devient une véritable conversation. Donc si on est tous les deux en train d'éditer le même document au même moment, on va pouvoir se répondre en direct. Si quelqu'un s'en va, ben, il pourra revenir voir ce qui s'est passé ensuite. Et il y a une fonction qui s'appelle le playback, qui va vous permettre de... Là où, si vous avez un email qui est envoyé après 5 ou 6 étapes, vous allez devoir tout relire, c'est super chiant. Là, vous pouvez reprendre le tout début de la conversation et vous pouvez cliquer sur « avancer, avancer, avancer » pour voir les différentes étapes de la conversation et suivre la chose comme elle s'est passée de manière beaucoup plus naturelle. Quelqu'un parle, l'autre lui répond, etc., etc., plutôt que de partir sur des dizaines et des dizaines de pages incompréhensibles avec des dates et des machins et des signes de réponse, etc., qui deviennent totalement ingérables. Je pense que mon explication n'est pas forcément super claire, parce que le problème, c'est que c'est le genre de choses tellement intéressantes et différentes de ce qu'on a l'habitude d'utiliser qu'il est impossible de l'expliquer sans la voir. Donc, je vous invite vraiment, si vous êtes intéressé par ce genre de sujet, à aller voir la présentation d'une heure et demie qui a été faite par Google, parce que c'est quelque chose de véritablement, à mon sens, révolutionnaire, que j'attends avec une impatience que vous ne pouvez même pas imaginer. C'est pour ce genre de choses que la technologie m'intéresse. Que c'est pour ça que nous vivons dans la technologie. C'est ce genre d'avancée. Et là, c'est une porte ouverte énorme à Yann, dont je suis sûr qu'il va avoir un avis un petit peu différent du mien.
Oh, je ne dirais qu'une chose. Amen. Dieu.
Ah, tu es d'accord, Jeff? C'est vrai, tu es d'accord avec moi?
Je pense qu'effectivement, ce qui est super intéressant avec cette approche, c'est que, bon, faut savoir que le unified messaging, donc la capacité à rapprocher l'email, l'instant messaging, le voicemail, etc., c'est pas nouveau. C'est des, y a des boîtes qui ont eu du financement en 98, 99, 2000, et qui se sont complètement plantées parce qu'en fait, on n'avait pas l'infrastructure logicielle, la pénétration d'Internet qui était suffisante à l'époque. Mais je pense que aujourd'hui personne ne s'est vraiment attelé à faire une refonte des systèmes de communication, et quand on voit aujourd'hui des projets, c'est toujours bah alors voilà, il y a Twitter d'un côté, puis il y a des gens qui essaient de renouveler l'email de l'autre, après tu auras des gens qui font des choses du côté mobile, mais personne ne s'est vraiment posé la question à un niveau un peu plus global. Et je pense que l'intérêt de Wave, c'est vraiment de lancer une réelle réflexion sur le sujet. Et moi, ce que j'apprécie beaucoup, c'est que c'est de l'open source, et donc c'est pas uniquement quelque chose que Google va développer, c'est une initiative qui est global. Le commentaire de Réosi sur le sujet, c'était en gros, bah oui, c'est ce que j'ai essayé de faire avec Groove. Je ne sais pas si vous vous rappelez de Groove, qui était le projet sur lequel il a travaillé pendant des années avant de passer chez Microsoft, enfin d'être racheté par Microsoft. Et c'était un espèce de méga bousin qui était énorme, qui était super lourd et qui était inutilisable. Mais à la base, c'était son objectif aussi. Et je pense que, vu ce que l'on a vu aujourd'hui avec la démo, bon, faut savoir que personne ne l'a touché, donc on verra un petit peu comment ça se passe quand on peut jouer avec, mais c'est vrai que ça a l'air super intéressant.
Et ce qu'il faut dire, effectivement, comme tu disais, c'est de l'open source, ça veut dire que c'est utilisable par n'importe qui. Il est tout à fait imaginable, par exemple, que le jour où il sera livré, Microsoft utilise ça et fasse son serveur Microsoft Wave, et tout le monde pourra remanipuler l'interface, l'adapter, l'améliorer à sa sauce, et c'est véritablement quelque chose qui est une sorte de... On va pas dire service pour l'humanité parce que c'est un petit peu fort, et puis il y a certainement une intention mercantile derrière de la part de... Non, mais c'est-à-dire que Google est une société à but lucratif qui, là, livre un projet de la même manière que Sun gère OpenOffice et le donne à tout le monde. Là, il y a une véritable intention d'ouverture et de possibilité pour tous de venir et de l'utiliser qu'on n'a pas l'habitude de voir chez des sociétés de ce type.
Franchement, je pense que cette décision-là, ce dont tu parles, le fait que ce soit open source, je pense que c'est purement politique. Honnêtement, enfin, pendant que je regardais la conférence, moi, tout ce que je voyais, c'était qu'il s'agit d'un système centralisé qui sera hosté chez Google. Donc, Google aura toutes les informations nous concernant sur ce qu'on fait.
Non, là, tu te trompes.
Attends. Je dis comment moi j'ai vécu le truc, c'est-à-dire que la conférence commence, ils nous montrent ça, et moi je voyais le truc comme ça, jusqu'au moment où ils disent, mais attendez, c'est un système open source, donc si vous nous faites pas confiance sur le fait de hoster nos trucs et que vous voulez hoster vous-même avec votre confidentialité, on vous propose également de le télécharger, c'est un produit open source, vous pouvez modifier et avoir le contrôle total sur le truc, mais... Honnêtement, moi, je pense que c'est purement pour pouvoir contrecarrer cet argument comme quoi Google a la fâcheuse, enfin, a cette identité de toujours vouloir fourrer son nez dans nos mails, etc. Et je pense qu'ils en sont conscients. Et donc, c'est une réponse aux gens qui pourraient éventuellement avoir cette critique. Et je pense que c'est intelligent. Mais honnêtement,
moi, je crois que c'est plus que ça. Moi, je crois que c'est plus que ça. C'est que l'idée véritablement de révolutionner le mail et les moyens de communication d'une manière plus large, comme le disait Jeff, ne peut être envisageable que si on ouvre cette technologie à tout le monde pour que tout le monde l'adopte. Si on garde ça en système propriétaire, ça ne peut pas se diffuser à tout le monde. Et même là, aussi enthousiaste que je sois, je suis convaincu qu'il y a une énorme partie des gens qui utiliseront toujours leur email classique auquel ils font confiance dans 5 ans, même si Wave arrive et révolutionne le monde. Ça ne va pas tout remplacer tout de suite, et ça ne va même pas tout remplacer tout court. Hein. Twitter sera toujours là, les autres seront toujours là. Et là, vas-y, Yann, je te laisse parler parce que je sais que des choses à dire.
Non, mais je pense qu'en plus, c'est un système qui n'est même pas naturel. C'est-à-dire que tu parlais tout à l'heure que l'email, ça fait longtemps que ça existe, mais l'email, c'est calqué sur quoi? C'est calqué sur le courrier qu'on envoie par la poste et que voilà, j'écris un courrier, je l'envoie et ma mère le reçoit. Et quand j'ai expliqué à ma mère comment fonctionne Anime, elle a tout de suite compris l'analogie avec un vrai courrier. Aujourd'hui, expliquer ça à quelqu'un de néophyte, le fait d'avoir un document qui est centralisé sur le net et que je crée ce document et qu'après cette personne va devoir aller sur ce document unique pour pouvoir converser avec moi, une ou plusieurs personnes, c'est un mécanisme qui est complètement différent et je pense qu'il va falloir pas mal de temps avant que les gens néophytes se fassent à l'idée parce qu'ils ont été habitués à l'email. Et j'écoutais le podcast Tweet de Léo Laporte et il disait quelque chose que je partage tout à fait, c'est que il pense, et je le pense également, que Google n'est même pas conscient de ce qu'ils ont inventé. C'est-à-dire que pour moi, ce Google Wave, c'est une fusion de trois outils qui c'est du Google Doc fusionné avec du Google Chat et avec du SourceSafe, gestion de versionning en fait. Et ils ont fusionné ces trois outils, ils l'ont appelé Google Wave, mais je pense que eux-mêmes ne savent pas exactement comment utiliser le truc. Et puis ils proposent une API qui en plus apparemment n'est pas orientée desktop, donc on ne risque pas de voir arriver des clients lourds qui vont s'appuyer sur Google Wave. Et donc tu penses également, enfin c'est également pour ça que je suis très sceptique par rapport à ça, puisqu'ils n'ont pas parlé non plus de Google Gear, de l'intégration de Gear avec ça.
Donc, si, ils en ont parlé. Et le truc, c'est que tu n'as pas besoin de Gear pour l'utiliser, sauf, alors, par exemple, excuse-moi, vas-y, finis, parce que...
Non, parce que moi, j'étais persuadé qu'ils n'avaient pas parlé de Gear, je ne les ai pas entendus parler de Gear, donc je te laisse continuer, parce que je suis curieux de savoir quand je n'ai pas de connexion Internet et que je veux consulter les messages, comment je le fais si je n'ai pas eu une première synchronisation à un moment donné.
C'est possible d'avoir une synchronisation, comme avec le Gmail, ça marche de la même manière. Et là, ce que disait Léo Laporte et ses amis dans This Week in Tech, c'est que c'était un compliment. C'est qu'ils disaient, ils ne savent pas ce qu'ils ont créé parce qu'ils ont créé une base sur laquelle les développeurs vont se jeter et vont inventer des choses auxquelles les concepteurs de base n'avaient pas pensé. Et il y avait par exemple une démonstration de comment partager ces photos simplement. C'est que tu crées ton truc, tu mets tes photos dessus et elles apparaissent immédiatement pour tout le monde. Et chacun peut éditer et commenter les photos, par exemple mettre des titres ou des choses comme ça. Et si tu l'as par exemple intégré sur un site web, toutes ces modifications vont se voir en direct à tous les endroits où ce document est visible. Donc, tu n'as pas besoin de l'envoyer, de faire en sorte que telle personne ait la bonne version. Enfin, bref. On a déjà passé un petit peu de temps sur Wave, je crois que... La remarque que je ferais sur ce que tu dis, Yann, c'est que tu dis que c'est un petit peu du Google Doc et du Google Chat, mais c'est comme dire le jour où la messagerie instantanée a été inventée avec ICQ il y a bien longtemps, c'est comme dire mais c'est comme un email un petit peu plus rapide. Bah oui, effectivement, tu peux y voir des similarités avec ce qui existe déjà, évidemment. Ça découle de là ou de là. Mais il n'empêche que le produit en lui-même intègre tellement de nouveaux fonctionnements qu'il y a un véritable avantage à celui-ci spécifiquement, plus qu'avec les anciens outils qu'on utilisait. Enfin, moi, j'en suis personnellement totalement convaincu et je suis vraiment impatient de voir ce que ça donne dans la pratique. Et là encore, il faut dire que personne ne l'a véritablement vu utiliser. Donc,
ça sort quand d'ailleurs ? Ils ont annoncé une date pour ce truc ?
Cette année. Alors, les premières bêtas seront disponibles d'ici sans doute la rentrée. Les développeurs sont déjà en train de jouer avec. Mais ce sera disponible pour le grand public avant la fin de l'année normalement. Donc, c'est pas si loin que ça. Hein.
D'accord, bon, on verra bien alors. Hein, parce que pour remplacer l'email.
Je pense pas que ce soit une question de remplacer l'email ou pas.
C'est comme ça qu'ils ont ouvert leur conférence. Hein. C'est comme ça qu'ils ont ouvert leur conférence.
Parce qu'à un moment ou à un autre, ton objectif, c'est de développer un produit qui pourra remplacer l'email, l'IM, etc. Et je veux dire, enfin, je sais pas pour vous, mais en tout cas, moi, j'ai complètement fait un shutdown de mes IM, c'est-à-dire que j'utilisais Trillion et Adium sur mes deux bécanes. Et en fait, ça, je les ai complètement arrêtés. C'est-à-dire que je n'utilise absolument plus mes IM qui date de pourtant des années, maintenant c'est Twitter et c'est Skype, point. Donc ça a mis du temps,
on est d'accord,
mais ça veut dire que tu peux changer en fait ton approche sur l'aspect communication si tu as des outils qui sont vraiment puissants. Et ça mettra peut-être 10 ans pour changer en fait les habitudes des gens et à passer en fait dans un nouveau mode de communication. Mais bon, comme le disait Patrick, c'est antédiluvien cette approche de alors je fais mon petit email et puis je le mets dans ma petite enveloppe et puis je l'envoie à ma petite adresse.
Ben moi, en tout cas, déjà aujourd'hui, en imaginant Wave, j'ai eu depuis la présentation, c'est-à-dire depuis une dizaine de jours, peut-être, tous les jours, il ne se passe pas un moment où je ne me dise pas « Là, je suis en train de faire quelque chose de cette manière, mais si j'avais un outil comme Wave, je pourrais le faire deux fois plus rapidement et de manière deux fois plus efficace. » Tous les jours, j'ai cette réflexion. Donc, écoutez, on verra. Là, on parle dans le vent. On vous en reparlera très certainement dans le rendez-vous tech d'ici quelques mois. Et on verra qui avait raison. C'est un deuxième défi entre Yann et nous, pour le coup, dans lequel Jeff est intégré.
Et on verra. Et puis si la chatroom aussi, hein, parce qu'apparemment, tout le monde est pour. Enfin, je viens de lancer le sondage. Et tout le monde pense également que Google Wave est très prometteur et que ça va sûrement très, très bien marcher. Donc, apparemment, c'est Yann contre le monde entier. On verra bien.
On verra. Tu as tort. Tu as tort.
et Ozem me dire oh là là Patrick t'as l'air épuisé, va falloir faire dodo pas trop tard aujourd'hui, merci c'est gentil de remarquer. Effectivement je suis un peu fatigué, donc avançons. Encore deux petites infos sur lesquelles on va passer beaucoup plus rapidement. Microsoft Bing est un nouvel outil de recherche, enfin bon c'est un moteur de recherche, hein, un petit peu comme Google
Yahoo.
Évidemment Google Yahoo, qui a été lancé il y a une semaine, donc c'est Bing, B-I-N-G, hein, bon pourquoi pas. Là où ils essayent de faire quelque chose de différent, c'est qu'ils le présentent comme un moteur d'aide à la décision, parce que quand vous faites une recherche sur un produit, par exemple un iPhone ou un iPod, quelque chose comme ça, et ben il va vous présenter le résultat de manière adaptée à votre recherche. Donc, moi, je ne suis pas totalement convaincu par la chose. Et puis, le gros problème, en fait, que Bing va avoir, c'est que les gens ne cherchent pas... quand ils veulent faire une recherche, ils réfléchissent même pas, ils vont sur Google. Ils vont pas se dire « Ah oui, mais il y a Bing aussi ». Ils vont directement sur Google, donc ça va être très difficile pour Bing de s'imposer. Mais il y a deux choses qu'il faut dire, c'est que déjà, ils sont passés devant Yahoo, au niveau
une
des
journée.
Moteurs de recherche, ce qui pourrait être le fait de la nouveauté.
Journée,
hein.
ça a déjà
ça a duré une journée. Hein.
C'est vrai. Mais bon, ça veut dire que ça a eu quand même un impact. Et puis, ce qu'il faut dire aussi, c'est comme le dit Jason Calacanis, quelqu'un qui est très célèbre dans le domaine de la technologie, qui est le président de Mahalo, qui est un autre moteur de recherche, c'est que chaque pourcent de l'industrie, enfin du business de la recherche, représente $1 milliard de business. Donc, même si Bing ne grappille que 5, 6, 7%, eh ben, c'est quand même pas négligeable et c'est pas tellement risible non plus.
Mais tu l'as testé, toi, pour quelques recherches ?
Oui, j'ai testé, oui. Oui.
J'ai lancé deux tests, moi, avec, et j'ai vraiment pas été convaincu. Je l'ai comparé directement à Google, je lui ai demandé où était la Guadeloupe ? Et puis il s'est planté. Enfin, il m'a proposé des locations de bagnoles en Guadeloupe, alors de me sortir un lien d'une carte. Et après, je lui ai demandé Where is Brian? Et puis là encore.
Mais c'est des questions à la con, ça. C'est...
mais non, mais.
Pose ça à Wolfram Alpha, t'auras la même chose. Je veux dire, la question, c'est sur quel type de recherche est-ce que Bing offre des réponses plus intéressantes. Et je pense que c'est tout ce qui est navigationnel, c'est-à-dire là où tu veux avoir plus que juste l'information brute, mais une indication, une map, une présentation, parce que c'est via du shopping, c'est pas inintéressant. Mais je dis pas que ça va remplacer Google.
C'est
demain,
ça, c'est-à-dire que c'est un outil qui est là pour certaines utilisations, et la question de l'achat de produits est quelque chose qui a été vraiment mis en avant par Microsoft, et peut-être que pour cette utilisation précise, ils sont meilleurs que Google, parce que Google ne fait que un agrégat de liens, et Bing est prévu pour faire une organisation des résultats un petit peu plus pertinente par rapport aux produits que vous avez recherchés, notamment, hein, c'est l'un de leurs trucs. Donc. Mais en tout cas, vous pouvez aller les essayer vous-même. On a un outil de comparaison qui est simplement un outil de recherche qui va vous ouvrir deux fenêtres avec le résultat dans l'un des moteurs et dans l'autre directement dans votre navigateur. On mettra les liens dans les notes de l'émission et vous pourrez voir ça vous-même et testé par vous-même. Très rapidement, bon, on va en parler quand même. Il y a eu un petit problème avec Bing, c'est qu'ils font des présentations, des previews en fait, des prévisualisations de vidéos à l'intérieur du moteur de recherche. Et ça, ça a posé deux problèmes. C'est que les copyrights n'étaient pas respectés, parce que si on faisait une recherche sur telle vidéo, on pouvait la voir directement dans Bing. Ça, ça a provoqué l'ire des gens qui gèrent les contenus copyrightés. Et il y a un autre problème, c'est que si vous faites une recherche sur du contenu pornographique, il suffit de désactiver le filtre anti-contenu adulte, et vous pouvez le voir directement, et ça passe outre les filtres anti-pornographie. Et donc ça, évidemment, ça a provoqué quelques réactions vives chez certains groupes de parents et de familles. autre info, Google Squared.
Qui est-ce qui a trouvé ça? Qui est-ce qui a été le premier à en parler?
Je pense que c'est la moitié de la Terre.
C'est notre Luc Lemaire National qui était un des premiers à le poster sur Twitter et qui est derrière.
C'est vrai, Loïc a...
Ouais, comme d'habitude. Alors pourquoi est-ce qu'il va faire ce type de recherche au bureau? Là, moi je ne ferai pas de commentaires.
Oui, on va rester bien silencieux. Google Squared a été rendu disponible également, on vous en parlait le mois dernier, et là on a eu l'occasion de l'utiliser. Google Squared, c'est un petit peu le même type de recherche, c'est-à-dire qu'il va classer les résultats dans une feuille de calcul, presque comme une feuille de calcul de tableur en fait. Donc il va trouver des points communs dans les résultats que vous avez, qu'il a trouvés. Et il va les classer de manière cohérente. C'est-à-dire que si vous cherchez, je ne sais pas moi, par exemple, une voiture, vous rentrez le nom de la voiture, et ben il va vous classer les résultats avec couleur, prix, vendeur, etc. Vous allez pouvoir faire des comparaisons de manière assez simple. Donc, Google Squared, pour les gens qui sont intéressés par les outils de recherche, ça peut avoir une certaine utilité, mais là encore, c'est un truc qu'ils ont livré comme ça, et on ne sait pas très bien les avantages que ça aura jusqu'à ce que les gens le prennent en main et le rendent... décidément, je suis vraiment fatigué. Et le manipule pour trouver des utilisations particulières à cet outil. Vous avez eu l'occasion d'utiliser Google Squared? Moi, j'ai fait 2-3 recherches, c'était marrant, mais bon.
Du tout, non. J'ai plutôt passé du temps sur Bing, mais pas avec Google Squared.
J'ai joué avec, c'est comme beaucoup des développements en Google Labs, c'est rigolo, c'est amusant, mais c'est pas clair à quoi ça va servir. C'est rigolo, quoi.
D'accord, bah écoutez, vous pourrez tester celui-là également en allant vers le lien des notes de l'émission. Et la dernière grosse info dont on voudrait parler, c'est la sortie du fameux Palm Pre, le téléphone qui est censé venir concurrencer l'iPhone. Yann, toi qui étais très enthousiaste, je vais te laisser nous parler un petit peu de cette machine providentielle.
Ben écoute, moi j'ai lu, je l'ai pas eu dans les mains malheureusement, mais j'ai lu pas mal de reviews sur internet parce que la NDA a été levée. Notamment j'ai lu la review de Engadget sur ce portable. Alors c'est mitigé en fait contre ce que pensent les journalistes. Il va sans dire que c'est un portable qui est sensationnel, surtout d'un point de vue système d'exploitation. Le WebOS est vraiment très très bien pensé, très très réactif. Le côté multitâche a vraiment fait sensation au niveau des testeurs. En revanche, il semble que le hardware ne soit pas génial. Il paraît que c'est pas forcément aussi robuste qu'un iPhone. Ça fait un petit peu plastique, ouais. C'est des adjectifs que j'ai entendus ici et là. Enfin, le côté peu robuste de la chose. Rien de très très grave, quoi. Mais il était systématiquement comparé à l'iPhone, et donc il avait forcément un poids lourd en face. Et donc voilà, quoi. Il paraît que d'un point de vue purement hardware, il est un petit peu en retrait par rapport à l'iPhone, mais ça reste quand même un très très bon portable. Par contre, d'un point de vue logiciel, comme je disais tout à l'heure, sur de nombreux points, il surpasse l'iPhone, notamment sur la gestion des contacts, la synchronisation avec Facebook, avec vos contacts sur Gmail, etc. C'est vraiment très très bien pensé. Les gens étaient séduits, et donc il va sans dire que moi, ce portable, je l'aurai dès qu'il sera disponible en France. Et voilà quoi. Moi, j'ai été vraiment très séduit par ce que j'ai pu lire. Et je recommande. Enfin, on mettra peut-être un lien pour permettre aux auditeurs de pouvoir lire le test. Mais ce qui ressort, c'est que c'est le concurrent le plus sérieux face à l'iPhone. Alors l'iPhone 3G, maintenant qu'ils ont sorti le 3GS, peut-être un petit peu moins. Il paraît également que le Palm Pre a un appareil photo qui est superbe. Bon, maintenant qu'ils ont amélioré celui de l'iPhone, il sera peut-être moins super que ça. Mais ça n'en demeure pas moins un téléphone sensationnel. Et je pense que entre le 3GS et le Palm Pre, moi, il n'y a pas de doute. Et ce sera vraiment celui que je recommanderais à tous les gens qui me poseraient la question, quoi.
Le Palm Pre, tu veux dire?
Oui, le Palm Pre, ouais, tout à fait.
D'accord. Jeff, quelque chose à dire pour défendre ton bébé, l'iPhone?
Défendre, non, mais moi j'ai joué avec le Palm Pre.
Voilà, pourquoi j'ai demandé à Yad alors?
Parce que moi j'ai des copains qui sont fous et qui se sont levés samedi matin à 6h du mat de manière à aller faire la queue devant chez Sprint. Faut savoir qu'un des gros problèmes du Pre, c'est qu'ils n'en ont pas construit beaucoup, donc la plupart des retailers qui étaient censés en avoir soit n'en avaient pas, soit ont vendu leurs quelques unités en un rien de temps. Alors, moi j'ai joué avec dimanche, parce que j'ai un copain qui me l'a prêté pour jouer un peu avec. Et donc, ce que j'aime bien, en gros, c'est quoi? C'est clairement le fait que l'OS est multitâche. Bon, déjà, c'est un device qui est assez sympa en termes de toucher, en termes d'impression. Ça fait pas très plastique. Enfin, il y a beaucoup de gens qui disent que ça fait plastique, je suis pas d'accord. Moi, j'ai bien aimé, en fait, la manipulation. L'OS a l'air vraiment très sympa, donc la possibilité d'avoir plein d'applications qui tournent en parallèle avec la possibilité de passer d'une application à une autre en faisant un petit peu un peu comme les cartes en fait sur Safari sur l'iPhone, c'est vraiment bienvenu. Il y a 2-3 applications qui sont vraiment très bien faites aussi. Les gros problèmes pour moi, c'est le clavier, c'est-à-dire que j'ai vraiment eu du mal. Les touches, ça ressemble un petit peu au clavier du Trio, et j'ai toujours eu beaucoup de mal avec ce clavier, donc j'ai trouvé que c'était pas très confortable. Paradoxalement, je suis maintenant plus confortable avec l'iPhone, qui pourtant n'a pas de clavier, mais au bout d'un moment on s'y fait. L'autre truc, c'est que le Press, il n'y a pas beaucoup d'applications, donc c'est encore assez pauvre. C'est en gros, tu fais de l'email, t'as un client Twitter qui est pas mal foutu, mais t'as pas encore toutes les applications.
Toute la richesse de l'iPhone, oui, c'est normal.
Sur l'iPhone. Et je suis pas clair que ce soit. Enfin, on va voir un petit peu ce que ça donne avec l'iPhone 3GS et le nouvel OS. Comment on va les comparer. Une des choses que moi j'ai bien aimé sur le Palm Pre, c'est la qualité de la caméra et le fait qu'il y a un flash intégré. C'est-à-dire qu'on peut prendre des photos qui sont vraiment sympas. Aussi, ça paraît un détail, mais quand tu vas prendre une photo, la gestion de la photo que tu viens de prendre est faite en background, c'est-à-dire que tu peux prendre plein de photos à la queue leu-leu, alors que typiquement sur un téléphone standard, il va prendre la photo, il va aller chercher la photo dans la caméra, il va la downloader dans la mémoire, et ça va prendre du temps. Donc, c'est pas mal. Moi, je pense que objectivement, comme c'est le gros concurrent, alors je sais pas s'ils seront capables de concurrencer, mais c'est quand même un concurrent sérieux de l'iPhone, j'allais en acheter un aussi.
Ah oui, d'accord. Ah, donc t'as quand même été séduit, quoi.
Si tu veux, étant donné que pas mal de mes investissements aujourd'hui sont sur les nouvelles plateformes mobiles, je pense pas que l'on puisse ignorer que ce soit le Android et donc ce que fait Google et le Pre. J'ai plein de mes boîtes, enfin j'ai quelques-unes de mes boîtes qui ont lancé en fait des applications sur le Pre qui vont être sur leur store dans quelques jours. Donc pour moi c'est un peu important de pouvoir tester ça, quoi.
Je crois qu'effectivement une petite question.
Pardon, vas-y.
Parce que comme tu l'as eu entre les mains, au niveau de la vitre du Palm Pre, c'est vraiment du plastique ou c'est du verre comme l'iPhone? Enfin, est-ce que tu penses que si on le met sur une table à l'envers, est-ce qu'il peut se rayer facilement ou est-ce que tu penses que c'est suffisamment robuste pour encaisser des rayures de ce type, hein?
Écoute, j'ai pas regardé ça et j'ai pas essayé de rayer le Pre de mon copain. Je vais le rappeler. Non, ça me paraissait être honnête. Moi, j'aime bien en fait la structure du 3G qui est assez solide, que j'ai fait tomber plusieurs fois et qui est à peine rayé. J'avais pas. Il y a beaucoup de gens qui ont commenté sur la sensation de plastique, le keyboard qui slide. Moi, j'aime bien comme design. Le seul truc qui est embêtant, c'est quand tu vas avoir une application en mode landscape, donc le clavier paysage. En paysage, merci. on peut pas accéder à un clavier sur le device. On doit retourner, se mettre dans le mode habituel pour taper sur le clavier. Et ça, c'est un peu mal foutu.
Ouais, c'est dommage. Ce sont des choses qui seront corrigeables assez vite, je pense.
Bah non, pas vraiment, parce que tu as la clavier problématique physique. Clavier physique.
Ah oui, d'accord.
Qui est là,
bien sûr,
et
oui.
tu vas pas enlever. Ils ont pas de clavier logique. Ils ont pas de clavier logiciel, si tu veux.
C'est vrai. Bon, enfin, en tout cas, ce qu'on peut retenir, c'est qu'effectivement, les premières impressions sont assez positives. Et si l'iPhone n'existait pas, celui-là serait vu comme une révélation, finalement.
Oui,
donc, il y a un véritable intérêt pour cet appareil et un pari plutôt réussi pour Palm. Et si vous êtes très intéressé par cet appareil, sachez qu'il sera disponible à Noël chez Orange en France. Donc, voilà, vous aurez quand même un petit peu de temps à attendre. C'est pas pour tout de suite. Et très rapidement, un autre truc qui sera disponible en Europe à Noël également, enfin, c'est le fameux Zune, donc le concurrent à l'iPod de Microsoft, et ce sera le Zune HD qui apporte des choses quand même très intéressantes et sur lequel le consensus est assez fort, c'est-à-dire que tout le monde l'a trouvé comme un vrai concurrent à l'iPod. Il aura un écran OLED, donc OLED, qui est cet écran d'une grande qualité avec une vivacité des couleurs beaucoup plus grande que avec les écrans à technologie traditionnelle. Il aura du touch, donc on pourra toucher l'écran, radio HD, Wi-Fi, connexion télé avec un câble, un rapport avec l'Xbox, avec la Xbox, et évidemment la possibilité de prendre un abonnement pour la musique, c'est-à-dire que cette fameuse possibilité à 10 ou 15 euros par mois dont on avait discuté le mois dernier avec
Mathieu
et Cédric. Et une autre info toujours en rapport avec Microsoft, c'est que Windows 7 a enfin une date de sortie, c'est le 22 octobre, donc vous pourrez acheter Windows 7 le 22 octobre, et il y aura un programme de préachat pour ceux qui ont Vista, très intéressant, en tout cas aux États-Unis, on imagine qu'il va arriver en France, c'est-à-dire que pour $50 seulement, vous pourrez acheter la version de Windows 7 pour mettre à jour votre ordinateur. Et là, c'est vraiment un prix intéressant parce qu'il faut savoir que Windows vaut généralement un prix exorbitant et que là, ça devient... c'est vraiment ce que devait faire Microsoft. On a l'impression qu'ils font quand même beaucoup de choses bien ces derniers temps. Hein, donc, peut-être que le départ de Bill Gates n'était pas une si mauvaise chose que ça parce qu'ils ont l'air de s'être réveillés là ces derniers temps.
Tant mieux pour le consommateur.
Tout à fait. On va avoir une petite rumeur à la con et avant tout, évidemment, je joue le jingle qui est...
La séquence des rumeurs à la con. À la limite, on aimerait bien en parler un petit peu quand même.
Merci à Cédric.
Excellent.
Pour le jingle. J'en avais plein des rumeurs à la con, mais... C'est le jingle que nous a envoyé notre auditeur favori, Cédric. J'avais plusieurs rumeurs dont je voulais parler. On va essayer de passer très rapidement dessus. Je voulais parler d'abord principalement du fait que le parti pirate suédois a obtenu un siège au Parlement européen avec 7% des votes en Suède. Vous savez que c'était les élections européennes hier. Et c'est quand même quelque chose d'assez important parce que ça veut dire que ce parti... qui, ça pourrait être anecdotique avec l'histoire du procès de Pirate Bay, etc. Mais ce parti qui est, dont le seul, la seule vocation est de demander la révision des lois de copyright, a quand même obtenu énormément de votes, quelque chose comme 200 000 votes. Et évidemment, ce ne sont pas eux qui vont changer quelque chose au Parlement européen avec un siège ou deux. Mais par contre, ça veut dire que les politiques en général, en tout cas en Suède, ne peuvent pas véritablement se permettre d'ignorer le problème parce que ça mobilise des votants. Donc ça, c'est quelque chose qui me semblait important de signaler dans un podcast comme le nôtre. La Chine a bloqué les sites de réseaux sociaux au moment de l'anniversaire de Tiananmen. Et ça, c'est quelque chose dont on a malheureusement l'habitude, mais qu'il était bon de signaler aussi. Et peut-être une dernière chose dont on peut parler, c'est le fait qu'il va y avoir une offre en tout illimité chez Virgin Mobile et une offre en haut débit pour PC portable. Virgin Mobile, qui est un opérateur de téléphone, hein, donc tout illimité, ça veut dire voix, SMS et données. Donc si vous êtes intéressé par ce genre de choses, ça sera en dessous de 100€ et ça sera disponible chez Virgin Mobile, donc ça peut être intéressant pour certains. Et il y aura une offre aussi haut débit très bientôt chez Auchan. Quand on dit haut débit, c'est pour PC portable, ça veut dire que vous avez une petite carte à insérer ou une petite clé USB à insérer pour avoir une connexion internet vraiment illimitée chez Auchan. Et tout ça, ça c'est intéressant, mais ce qui serait vraiment, vraiment intéressant, ça serait que Free obtienne une quatrième licence de téléphone mobile. Et avec une alliance avec le groupe Bolloré, il n'est pas impossible que ces choses, cette chose se réalise enfin. C'est un petit peu un fantasme de geek qu'on a depuis des années. Et là, ça risque d'arriver. Et il faut savoir que ça serait très certainement révolutionnaire pour le marché des offres des téléphone portable, parce que Free est la société qui a véritablement fait bouger les choses. C'est les fournisseurs d'accès internet quand ils sont arrivés, et les choses n'ont plus jamais été les mêmes à partir de leur arrivée. Et il n'est pas impossible du tout que s'ils arrivent sur le marché des téléphones portables, ils fassent le même genre de révolution et de chamboulement. Donc on croise les doigts pour que la concurrence soit enfin effective sur ce marché également, ce qui n'est pas encore forcément le cas aujourd'hui. Voilà pour nos rumeurs et nos histoires à la con très rapide.
Et mais ces offres-là, c'est toujours sur des plans de 12 mois, etc. Ils ne font pas encore du à la carte où tu peux prendre le truc, l'utiliser pendant un mois et tu payes pour ta consommation.
Non, le véritablement illimité, effectivement, ça demande des engagements assez longs. Mais ça c'est presque compréhensible. Moi, je prends, cet aspect-là ne me dérange pas, moi, personnellement. Le fait qu'on doive s'engager sur 12 mois, je peux le comprendre. Parce que quand on a quelque chose de véritablement illimité, bon, évidemment, si on est là pour un mois, on a juste besoin de ça juste pendant ce mois-là, et on va exploser les compteurs pendant un mois, et le lendemain, c'est fini. Enfin, le mois suivant, on le rend parce qu'on en a plus besoin. C'est presque... Tu vois, je comprends qu'ils aient besoin d'avoir un équilibre à ce niveau-là. Mais bon, peut-être que les autres seront moins convaincus. Bon, écoutez, ça va être tout pour nos news. On passerait rapidement à la conclusion de notre émission avec un conseil logiciel qui se double en site fantastique, puisque c'est un petit peu deux choses en même temps. C'est la plateforme Steam. Alors Steam, qu'est-ce que c'est ? C'est le logiciel de la société Valve qui édite des jeux vidéo. Et il vous propose en fait de télécharger un logiciel qui s'appelle Steam. Vous créez un compte chez eux et ça vous donne une interface de gestion de vos jeux, de gestion et d'achat de jeux sur Internet. On parlait de vente de logiciels dématérialisés il y a quelques minutes. Là, ça vous permet de faire ça très simplement sur votre ordinateur. Et là où ça devient intéressant pour tous les auditeurs, c'est que non seulement vous pouvez acheter des jeux facilement, mais vous pouvez également en bénéficier si vous n'avez pas envie de dépenser vos sous, parce que vous pouvez aussi très facilement voir des vidéos et également télécharger des démos gratuites. De la même manière que vous le faites sur votre Xbox 360, et bien là, même si vous n'avez pas de Xbox, vous avez un petit peu les mêmes avantages sur votre PC avec ce logiciel Steam. Vous pouvez voir des vidéos, télécharger des démos, etc., etc. Et je vous le recommande vraiment, c'est extrêmement bien fait, très très stable.
Ah, c'est vraiment bien foutu.
Oui, tu l'utilises Steam ?
Écoute, c'est vraiment bizarre que tu le proposes pour cet épisode, puisque j'ai ouvert un compte Steam hier pour la première fois. J'ai pour m'acheter justement le Team Fortress 2, le jeu de Valve, là, le FPS, et j'ai vraiment été séduit par le truc, quoi, parce que c'est vraiment super bien fait. Tu as vraiment beaucoup de jeux qui sont à l'intérieur, tout est centralisé, et moi ce qui me plaît beaucoup aussi, c'est que tu peux aller sur différentes machines et installer ton jeu, c'est-à-dire que tu installes Steam, c'est un petit client assez léger, je crois que ça fait une 50aine de mégas, tu te logues et tout, et même si t'as oublié de prendre ton jeu parce que il est chez toi, t'es parti en vacances, t'es sur le PC d'un pote, et t'as oublié de récupérer ton jeu, ben tu te connectes chez ton ami, tu télécharges le client Steam et tu peux re-télécharger le jeu. Et comme t'es connecté avec ton compte, donc Valve peut vérifier que tu es bien le propriétaire du jeu et te laisser jouer. Donc on est vraiment dans un univers entièrement dématérialisé, et quel que soit l'endroit où tu es, tu peux télécharger tes jeux, t'as ta bibliothèque, t'as toute ta liste d'amis, un petit peu à la philosophie Xbox Live, où tu peux rester en contact avec les gens avec qui tu t'es bien amusé online, que ce soit sur Team Fortress, sur Command & Conquer ou n'importe quel jeu. Donc on a vraiment un aspect communautaire, un aspect dématérialisé, et j'appuie fortement cette recommandation parce que j'ai vraiment été séduit par Steam également, quoi.
Bah écoute, comme quoi tout arrive, nous tombons d'accord et nous terminons l'émission heureux et amis.
Non, je suis pas d'accord.
Oh, damned.
Mais si, je suis d'accord. Mais je voulais juste mentionner que Bounty, qui est une boîte française qui a été lancée par les frères Nouzareth en 2001, était un des pionniers dans le domaine du download d'électronique de jeux. Et c'est quelque chose qu'ils avaient donc développé depuis 6 ans. Et ils ont vendu cette activité l'année dernière pour se focaliser sur Café.com, qui est un portail pour les jeux Flash, donc tout ce qui est social gaming.
Eh ben écoute, c'est un autre site sans doute à visiter. Eh ben voilà, alors Steam, ça sera notre conseil logiciel. Et café.com, tu dis, C-A-F-E ?
C-A-F-E.com, oui.
C-A-F-E.com pour le site fantastique. Hop, voilà, on double.
Et un shout-out à Mathieu et Roman, qui sont deux mecs super cool. Et qui sont des entrepreneurs français.
Ça marche. Shout-out à Mathieu et Roman. Bah écoutez, on avait une petite explication d'Arnaud sur les systèmes d'exploitation, mais je pense qu'on va la laisser pour le mois prochain, parce qu'on a déjà été un petit peu long, et donc je vais conclure l'émission en vous disant, en vous remerciant encore une fois de nous avoir laissé des messages et des avis très nombreux sur iTunes. Merci encore à vous tous d'avoir pris le temps de faire tout ça. Si vous voulez laisser des commentaires sur l'épisode, vous pouvez aller sur le site lrdv.fr, lrdv pour le rendez-vous, vous le savez évidemment. Vous pouvez nous envoyer un mail à tech@frenchspin.com, et vous pouvez retrouver Yann sur Twitter à twitter.com/YannAllais.
Yann Allais.
Voilà. Exactement. Et son site yannallais.com. Et vous pouvez vous pouvez trouver Jeff sur Twitter à twitter.com/Jeff pour bénéficier de tous ces sages conseils dans tous les domaines du business et de la vie aussi, n'est-ce pas Jeff?
Aussi. En anglais dans le texte.
En anglais. Et si vous avez des tuyaux pour pouvoir lui trouver un MacBook 15 ou 17 pouces, ça marche aussi, je pense qu'il sera preneur.
Ah ouais, tout à fait, je veux savoir où ils sont en vente, je les veux maintenant.
Et vous pouvez me retrouver sur Twitter, sur twitter.com/notepatrick. On vous remercie tous de votre fidélité et on vous dit à dans 15 jours pour un prochain épisode du Rendez-vous Tech. Ciao à tous.
Salut.
Salut à tous.
C'est vraiment con que ce soit limité à 12 personnes, quoi, parce que je sais que pour la conférence de Sony, je suis rentré donc dans votre tiny chat où il y avait tout le monde. J'ai branché ma webcam et tout, et puis je participais avec vous. J'étais là sous la webcam et je répondais aux questions que vous vous posiez. Je discutais avec vous pendant une 20 bonnes minutes, hein, avant de me rendre compte que tout le monde s'en foutait complètement de ce que je disais. Et c'est à ce moment-là que j'ai réalisé que c'était écrit tout en bas, qu'il n'y a plus de slot disponible pour moi et que personne ne me voit et personne ne m'entend. Donc, voilà, 20 minutes là. Hey, salut, ouais, je trouve ça bien.
C'est vrai.
Oh là là. Mais je me suis senti
un misérable cancre là.
Excellent.
When you make decisions for your company, you look for the no-brainers. And if you have a lot of mailing to do, Stamps.com is the ultimate no-brainer. It streamlines your processes to make your business more efficient, which makes you less busy. Mail checks, invoices, legal documents, and everything you need to keep your business running with Stamps.com. Seamlessly connect with every major marketplace and shopping cart. Schedule package pickups and see your cheapest and fastest shipping options from different carriers. With rates up to 89% off USPS and UPS rates. And with the Stamps.com mobile app, you can take care of mailing and shipping wherever you are. Make the same no-brainer decision as over 1 million other businesses with Stamps.com. Sign up with code PROGRAM for a 4-week trial, plus free postage and a free digital scale. No long-term commitments or contracts. That's Stamps.com. Code PROGRAM.